Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Europe 1. Ravi de vous accompagner jusqu'à 20h pour analyser, décrypter et débattre de l'actualité de la semaine. Au programme, Eric Strohmann, le maire des Républicains de Colmar, sera mon invité politique de 18h15. On reviendra sur l'histoire de ce jeune homme abattu par balle après s'être interposé lors d'un rodéo urbain, mais aussi de l'envoi de la brigade d'élite, les CRS-8. Ça fait débat dès 18h30, comment favoriser les voyages en train pour polluer moins. Et dès 19h30, encore un débat. On se parle cette fois d'un phénomène nouveau et grandissant, l'éco-anxiété. Mais rassurez-vous, il existe bien évidemment des solutions pour le moment. Il est 18h. Le journal. Après la violence des intempéries qui se sont abattues jeudi sur la Corse, les orages de la nuit dernière ont été moins virulents. Le bilan provisoire de la tempête reste de 5 morts et d'une vingtaine de blessés. Les tensions sont toujours vives à Vénissieux après un nouveau refus d'obtempérer qui a coûté la vie à un homme. Une autre personne est en état de mort cérébrale. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus au sujet de la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine et s'accordent pour qu'elle soit impactée et inspectée par l'AIEA. Et puis, près de 40% des cancers seraient dus à l'alcool et au tabac. Une grande étude scientifique dresse un constat affligeant et lance la sonnette d'alarme.
Europe 1.
La Corse d'abord avec cette journée du jeudi 18 août qui restera longuement gravée dans les esprits. Le bilan provisoire des orages fait état de 5 morts et d'une vingtaine de blessés. Les lieux où sont intervenus les drames sont encore marqués par les événements tragiques d'hier. Et pourtant, les vacanciers reviennent dans les campings, Frédéric Michel.
Oui, et après avoir vécu cette tempête, pour beaucoup de vacanciers évacués comme Anthony, ce retour au camping, c'est le retour à la normale.
On est revenu, il n'y avait pas de raison de ne pas revenir. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps.
Fanny, venue de la Côte d'Azur, garde encore en tête les images du déluge.
Ce nuage arrivé, ce vent sous mettre à souffler, ouais, ça a été impressionnant.
C'est assez impressionnant pour des vacanciers de se retrouver au milieu de cette tempête.
Ruben a 10 ans, il se rappellera longtemps de ses vacances en Corse.
Ça m'a stressé parce que je me suis dit, quand tous les arbres vont tomber, ça va être n'importe quoi.
Pour Sandrine, évacuée d'un camping de Porticcio avec ses enfants et son Marie, l'organisation a été parfaite.
On avait le choix, soit on pouvait partir, soit on pouvait dormir dans notre camionnette, ou etc. Sinon, ils nous relogeaient. Nous, on a été relogés dans un bungalow, gracieusement. Mais en tout cas, ils ont fait attention, parce que tout le monde dans les tentes, ils faisaient le tour pour vérifier qu'il n'y a plus personne dans les tentes. Puis là, depuis deux jours, ils débitent les arbres, ils nettoient.
Nathalie Casalta est la propriétaire d'un camping situé près d'Ajaccio.
Et on ne peut pas imaginer que ça puisse nous arriver, quoi. Pas dans un camping, dans un truc où il y a de la liesse, de la joie, de l'amitié, de la convivialité. On ne peut pas imaginer.
Et sans oublier le lourd bilan humain de cette tempête, les touristes que j'ai pu rencontrer m'ont dit vouloir poursuivre leurs vacances, aller à la plage, à la piscine, au restaurant, s'amuser.
Frédéric Michel en direct d'Ajaccio pour Europe 1 et pour en parler avec moi, Gilles Séméoni. Bonsoir, vous êtes le maire d'Ajaccio, le ministre... Allez-y.
Pas le maire d'Ajaccio, le président du conseil exécutif de Corse.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place en Corse. Il a pointé du doigt le rôle des prévisions météo. On va l'écouter, on en parle juste après.
Donc c'est l'alerte météo qui n'a pas permis de qualifier, comme il le fallait, ces vents.
Des vents pas bien qualifiés, une réaction.
Écoutez, je pense que maintenant, il va falloir faire une expertise technique. Météo France a donné un certain nombre d'explications. Ce qui est certain, c'est que l'épisode de vent dantesque que nous avons connu est sans précédent, absolument sans précédent dans l'histoire de l'île. Je pense qu'il était largement imprévisible. C'est en tout cas les explications qui nous ont été fournies jusqu'à aujourd'hui. Elles demandent à être définitivement confirmées lors des jours à venir.
Gilles Séméoni, si l'alerte avait été donnée plus tôt, c'est vrai qu'avec des focailles à con, avec des si, on peut changer le monde, mais si cette alerte avait été donnée plus tôt, on aurait pu, d'après vous, éviter ces drames?
C'est-à-dire, si on avait les moyens techniques de prévoir 24 heures avant des vents d'une telle violence, c'est sûr qu'on prendrait des précautions supplémentaires. Mais là, on a un phénomène qui se forme en quelques minutes ou quelques dizaines de minutes au maximum. Donc je pense que malheureusement, il n'y avait que peu à faire contre ça. Et puis je vais vous dire, aujourd'hui, on a un petit peu plus de recul, 24 heures de recul, 36 heures de recul. On se rend compte qu'en fait, le bilan est extrêmement lourd, mais il aurait pu être encore plus dramatique. On est passé vraiment à côté d'une catastrophe. Vous savez, là, je suis en Balagne, donc une des régions qui a été touchée de plein fouet. Je discutais, par exemple, avec des exploitants de clubs de plongée qui me disaient qu'ils avaient 40 personnes sur un bateau qui était en train de prendre la mer et que par miracle, ils ont pu revenir à terre. Si la tempête était arrivée une demi-heure après, il y avait 40 personnes dans l'eau. Nul ne peut savoir ce qui s'est passé.
On imagine qu'il n'y a pas eu d'impact sur la prise en charge des blessés. Les secours, eux, ils étaient là sur place dès le début, dès qu'il a fallu intervenir.
L'ensemble des secours a été absolument remarquable, hein, qu'il s'agisse des personnels, des sapeurs-pompiers, sapeurs-forestiers, sécurité civile, l'ensemble des moyens qui ont été déployés. Je ne peux pas les citer tous, mais je crois que vraiment, tout le monde a fait le maximum. Et puis, indépendamment du travail des secours, des professionnels du secours, il y a eu aussi une mobilisation des Corses, comme souvent lorsqu'on a ce genre d'épisode dramatique, qui, 10 minutes, un quart d'heure après le déchaînement de la tempête, était sur les lieux pour sauver les gens, pour essayer avec des tronçonneuses, avec des engins, de déblayer les troncs. On a fait près de 200 interventions pour réouvrir des routes. Donc voilà, ça a été un travail colossal. Malheureusement, un bilan dramatique. Et encore aujourd'hui, bien sûr, on pense aux victimes.
Bien sûr.
Et on espère pour les blessés qu'ils se rétabliront.
Et on pense aussi aux blessés qui sont encore, pour certains, hospitalisés. Avec le réchauffement climatique de la Méditerranée, on imagine que ces événements vont être amenés à se reproduire. La Corse, entre autres, a-t-elle les moyens de lutter ?
Tout à fait. Ça, c'est le problème de fond. On avait déjà commencé à le poser. Il y avait d'ailleurs, à la fin du mois de juillet, j'avais fait une intervention dans l'Assemblée de Corse pour dire que nous devions revisiter complètement nos politiques publiques. J'en ai parlé ce matin avec le ministre de l'Intérieur. Vous savez que, d'ailleurs, on a une phase de discussion politique de fond qui est en train de s'ouvrir avec l'État. Je pense que la Corse, territoire insulaire, territoire méditerranéen, doit véritablement se positionner comme un territoire innovant en matière de politique publique dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et plus globalement au titre de la transition écologique. Ça fera l'objet des discussions et des travaux à venir dans les semaines et dans les mois.
Alors rapidement, Gilles Simeoni, qu'est-ce que vous attendez sur ce sujet du gouvernement ?
Bon, d'abord, il faut solder cet épisode douloureux. Encore une fois, une pensée pour les personnes, que les blessés se rétablissent, qu'au plan matériel, eh bien les indemnisations puissent se faire le plus rapidement possible. Et puis derrière, il faudra analyser est-ce qu'on aurait pu mieux faire en termes d'anticipation. Ce matin, on discutait, il y a des balises qui vont être mises en mer et qui auraient permis, par exemple, d'avoir un peu plus de temps de réaction et d'anticipation. Ça, c'est un exemple technique. Il y a aussi, vous savez, des systèmes d'alerte à travers le système FR-alerte qui a été mis en œuvre depuis juin dernier et qui doit permettre de diffuser des informations sur l'ensemble des téléphones portables pour des territoires qui peuvent être impactés notamment par des éléments météorologiques. Et puis après, il y aura la réflexion de fond, comment on gère mieux les épisodes de sécheresse, les épisodes de risque d'incendie, les épisodes de déchaînement des éléments comme nous les avons connu. Est-ce qu'il faut prévoir des zones tampons pour abriter les gens en cas de grosse tempête comme nous l'avons connu hier?
Vaste débat donc qui nous attend à la rentrée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gilles Simeoni. Je rappelle que vous êtes le président du conseil exécutif de Corse. Merci d'avoir accepté mon invitation. Allez, restez bien avec nous dans un instant. La suite de votre journal.
Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
18h10, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. La suite de votre journal, une situation toujours très tendue à Vénissieux, près de Lyon. Après ce nouveau refus d'obtempérer la nuit dernière, un homme est décédé, une autre personne est en état de mort cérébrale. Des refus d'obtempérer qui deviennent monnaie courante en France. On en compte un toutes les 20 minutes. Et selon Alain Barberis, porte-parole du syndicat Alliance Police dans le Rhône, une réponse pénale ferme est aujourd'hui indispensable.
Tout simplement la réponse pénale qui envoie depuis des années un signal très très mauvais parce qu'il y a eu une banalisation sur les refus d'obtempérer. Il faut que la justice sanctionne lourdement, mais surtout il faut que la peine prévue soit effectuée. On a un exemple de la BAC Centre le mois dernier sur la Guillotière qui a été percutée par un 2 roues sur un refus d'obtempérer. La peine prévue 5 ans, la peine prononcée 1 an. Quand vous savez que sur 1 an, il y a un aménagement automatique qui se fait, le conducteur qui a percuté un policier, qui a refusé le contrôle, hein, c'est des circonstances aggravantes, et bien derrière, il est laissé libre, d'une certaine manière. Voilà, il faut des décisions politiques et surtout que la réponse pénale soit à la hauteur pour pouvoir répondre à ces agressions insupportables.
Et deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Lyon. Sur le front de la guerre en Ukraine cette fois, les tirs ont continué autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, ce qui provoque toujours une grande inquiétude de la communauté européenne. Emmanuel Macron, le chef de l'État, et Vladimir Poutine, son homologue russe, se sont précisément entretenus au téléphone à ce sujet cet après-midi, Arthur Delaborde.
Oui, au cours de cet entretien d'une heure et quart, Vladimir Poutine a notamment reconnu le risque de catastrophe de grande envergure que les combats provoquent autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Le président français et son homologue russe se sont mis d'accord sur la nécessité d'envoyer une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le site. L'Élysée souligne en particulier que Vladimir Poutine a accepté pour la première fois le principe que les experts de l'AIEA puissent accéder à la centrale depuis les zones contrôlées par les Ukrainiens et non pas depuis celles contrôlées par les Russes. Ce qui est un élément important en faveur du respect de la souveraineté ukrainienne. Un conseiller d'Emmanuel Macron explique toutefois que les modalités de cette future mission restent à définir, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité et la nécessité de conclure un cessez-le-feu dans la région afin que les opérations de vérification se déroulent dans de bonnes conditions. Les présidents français et russes ont d'ailleurs convenu de se reparler sur le sujet dans les prochains jours.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. C'est un secret de Polichinelle qui part en fumée. Le tabac et l'alcool, principaux responsables des cancers dans le monde, c'est ce que révèle une étude publiée dans la revue scientifique de Lancet, Yasmina Khatoum.
Oui, alors on le savait déjà, boire de l'alcool et fumer augmente le risque de développer des cancers. Mais cette étude nous donne plus de détails. Le tabac est de loin le principal élément qui favorise les cancers dans 34% des cas, et ce, pour les hommes comme pour les femmes. La consommation d'alcool arrive en deuxième position pour les hommes. Pour les femmes, c'est différent. La deuxième cause de cancer, ce sont les relations sexuelles non protégées. Enfin, pour les deux sexes, l'étude nous révèle que ce sont les mauvaises habitudes alimentaires qui augmentent le risque de développer des tumeurs. Ce sont donc des comportements qui pourraient être évités. L'étude plaide donc pour accorder une plus grande place à la prévention, pour changer ses habitudes. Toutefois, plus de la moitié des cancers sont dus à des problèmes de métabolisme. Selon les auteurs, la recherche doit donc avancer sur les traitements et les diagnostics plus rapides. Deux piliers pour éviter les millions de morts. En 2018, plus de 9 millions de personnes sont décédées des suites d'un cancer.
Yasmina Khatoum, spécialiste santé d'Europe 1. Sur un autre sujet, au contraire, d'ailleurs au Japon, initiative très surprenante des autorités qui lancent une grande campagne pour inciter les 20-39 ans à boire de l'alcool. Impensable, vu de France, car avec la crise sanitaire, la fréquentation des bars au Japon et donc la consommation d'alcool a fortement baissé à tel point que cela devient un problème économique pour le pays. Les explications d'Aurélien Fleureau.
Effectivement, puisque c'est l'Agence nationale des impôts qui est à l'origine de cette campagne, imaginez un peu le fisc en France qui nous inciterait à boire pour renflouer les caisses de l'État. En tout cas, c'est un réel manque à gagner pour le gouvernement japonais. C'est à la fois une tendance de fond. En 25 ans, la consommation moyenne par habitant est passée de 100 à 75 litres par an. Une tendance qui s'est accélérée avec la crise sanitaire. Et les changements d'habitude, fini les apéritifs de fin de journée au bar à boire des litres de bière entre collègues, une institution au Japon dont la jeune génération paraît bien contente de se passer, sauf que dans un contexte national où l'économie est morose, eh bien cette forte baisse de revenus fiscaux liés à l'alcool tombe mal. Les jeunes japonais ont donc jusqu'au 9 septembre prochain pour proposer de nouvelles idées, de nouveaux modes de consommation. Alors la campagne a tout de même suscité quelques réactions négatives dans le pays, mais le ministère de la Santé s'est contenté de rappeler que la consommation devait évidemment se faire avec modération.
Aurélien Fleureau pour Europe 1. Le sport cette fois et cette question. Qu'arrive-t-il à Kylian Mbappé? Celui qui a joué son premier match de la saison face à Montpellier aurait eu un comportement qui laisse à désirer. Le PSG annonce des problèmes personnels. Les médias, un conflit avec l'autre star du football, Neymar. Pour Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, tout va bien.
Il n'y a aucun malaise et je vous le confirme avec beaucoup de sincérité. On a eu une semaine très agréable dans le travail où les uns et les autres ont travaillé pour bien préparer le match face à Lille. Et j'ai apprécié évidemment toutes les séances de cette semaine où cet épiphénomène du match face à Montpellier a disparu très rapidement, c'est-à-dire au lendemain lors de notre séance de décrassage.
Allez, le ciel.
À la plage ou au bureau, retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriad, partez à la découverte de nos régions sur kyriad.com.
Plaisir de vous retrouver, Anthony Cazemarec. Qu'en est-il de la situation dans le ciel ?
Bonsoir Jeanne, bonsoir à tous. Et bien demain, ça va enfin se calmer.
Ah.
Avec un temps qui sera sec quasiment partout. Il y aura quand même beaucoup de nuages au réveil entre la Nouvelle-Aquitaine, le centre et le nord-est, avec encore quelques averses orageuses, mais seulement pour la Lorraine, l'Alsace et le Jura. C'est d'ailleurs dans cette zone qu'il y aura encore quelques gouttes dans l'après-midi. Partout ailleurs, donc un temps sec, mais avec de nombreux brouillards le matin au nord de la Loire. Et encore du vent en Méditerranée, mais c'est ce vent qui va dégager le ciel toute la journée dans ces régions, entre l'Occitanie et la Côte d'Azur jusqu'à la Corse. Vent entre 60 et 70 km/h en rafale. Et puis le voile de nuages va arriver en fin de journée par l'Atlantique. Ce voile annonce une petite dégradation seulement nuageuse pour dimanche, avec a priori pas de pluie. Les températures demain seront fraîches. Au réveil, on partira de 9 degrés seulement à Beauvais, pour aller encore jusqu'à 22 degrés à Nice. Il fera 14 à Lille, 15 à Paris. Et dans l'après-midi, température toujours de saison, 21 degrés à Brest et à Cherbourg, 24 à Lille, 25 à Paris et à Strasbourg, 26 pour Nancy et pour Limoges, 29 degrés à Bordeaux et à Nice, et encore 33 degrés pour Perpignan et pour Nîmes.
Merci beaucoup Anthony Cazemarec, on vous retrouvera tout à l'heure dans le journal de 19h à suivre. Éric Strohmann, le maire des Républicains de Colmar, sera mon invité politique dans un instant. On reviendra sur l'histoire de ce jeune homme abattu par balle alors qu'il s'est interposé lors d'un rodéo urbain, et on parlera bien évidemment de la présidence des Républicains. A tout de suite sur Europe 1.
Bon. Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
On revient ce soir sur ce drame intervenu à Colmar suite à un rodéo urbain qui a coûté la mort à un jeune Afghan. Il s'était interposé. Gérald Darmanin a décidé d'envoyer l'unité d'élite, les CRS-8. On fait le point avec vous, Éric Strohmann. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le maire de Colmar.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Le maire de Colmar, les Républicains, vice-président de la collectivité européenne d'Alsace. Est-ce que c'est un drame qui, d'après vous, Éric Strohmann, aurait pu être évité ?
Alors, d'abord sur les faits, attendons les résultats de l'enquête. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'il y a eu à proprement parler rodéo. Il y a un scooter qui a perturbé le voisinage avec son bruit, et particulièrement un groupe d'Afghans qui était au pied d'un immeuble. Un des protagonistes était au téléphone, le scooter passait devant, bruyamment, et il est intervenu à ce moment-là, a demandé à ce que le bruit cesse. Il y a eu une bagarre qui s'en est suivie.
Oui.
Et ensuite, il y a un coup de feu. Donc, on n'est pas vraiment... Il y a eu un emballement
médiatique,
autour du rodéo.
On a vu
voilà,
des proches...
Alors, c'est pas vrai. Bon, laissons faire l'enquête. C'est pas directement lié au phénomène de rodéo, même s'il existe par ailleurs à Colmar, avec des phénomènes nouveaux de rodéo, de grosses cylindrées.
On y vient dans un instant, si vous le permettez, Éric Strohmann. On a vu des proches de la victime défiler dans les rues, chez vous, à Colmar. Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec ces proches de la victime ?
Alors, j'étais tout de suite le lendemain des faits, je suis allé sur place, je suis allé écouter les riverains, les voisins et certains témoins directs de la scène. Et j'ai également reçu, alors il n'y a pas de famille vraiment directe, il y a un cousin. Et on a une petite communauté afghane à Colmar qui est une communauté très paisible, qui cherche à s'intégrer, qui ne pose strictement aucun problème. Et évidemment, ils sont très touchés par ce qui est arrivé. C'est comme un jeune homme, père de 4 enfants, qui disparaît de manière tout à fait brutale et dramatique et injustifiable. Et voilà, et on comprend tout à fait à la fois leur douleur et leur incompréhension, d'autant plus que l'auteur de ce crime, de cet assassinat, puisque c'est qualifié ainsi par le parquet, n'a pas encore pour l'instant été retrouvé.
Est-ce que jusqu'à présent vous considériez que l'insécurité était un problème à Colmar ?
Il faut regarder les statistiques générales, on est sous la moyenne nationale. Mais on est dans un quartier de reconquête républicaine, les difficultés qui existent dans ces quartiers qui sont qualifiés ainsi, et il y a naturellement des problèmes de trafic de stupéfiants, il y a des problèmes de rodéo, c'est évident, et des problèmes de rodéo de scooters qu'on connaît depuis très longtemps avec les deux roues, et plutôt maintenant aussi des problèmes de rodéo avec des voitures de luxe, de grosses cylindrées.
Oui.
et des incivilités diverses. Même aujourd'hui, la presse régionale a fait une page sur les difficultés qu'on rencontre dans notre quartier, même si beaucoup d'acteurs, les plus anciens d'habitants, reconnaissent que la situation n'est plus la même que ce qu'on a connu il y a 15 ans, où c'était bien plus difficile. On a quand même des statistiques qui ne correspondent pas à ce qu'on rencontre ailleurs en France.
Trois opérations contre les rodéos urbains par jour et par département, c'est ce que désire le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est une solution qui est efficace pour vous ?
Oui, à condition de s'en donner les moyens. Il y a régulièrement des rodéos. En été, en soirée, vers 20h, vous avez régulièrement des cyclomoteurs qui font des wheelings, qui font des démonstrations sur la voie publique. Il faut s'en donner les moyens. Hein. Un équipage de police ne peut pas prendre ça en charge. Il faut mobiliser pas mal de policiers pour pouvoir intercepter les véhicules. Et ensuite, il faut aussi qu'il y ait une réponse pénale sérieuse. Je l'ai entendu tout à l'heure dans le bout de la bouche d'un policier. Il faut qu'il y ait une réponse pénale, parce que si c'est simplement un simple rappel à la loi, c'est pas suffisamment dissuasif. Il faut une confiscation systématique des véhicules concernés. Le grand problème, c'est que très souvent, les conducteurs, alors on peut, si on les arrête, bien sûr,
bien évidemment.
Mais lorsqu'on les arrête, très souvent, ils sont pas propriétaires du scooter. Donc on ne peut pas le confisquer, on ne peut pas le détruire,
oui, parce qu'ils savent très
bien qu'il y a un vide juridique de ce côté-là.
Éric Strohmann, les rodéos urbains, ce sont des jeunes, voire même des très jeunes, qui s'adonnent à ces pratiques. Est-ce qu'on ne craint pas ici plus de drames, notamment avec l'intervention de cette fameuse unité d'élite, les CRS-8 ? Ajouter les CRS à cela, est-ce que pour vous, ça n'est pas non plus une ascension vers la violence ? Est-ce que les policiers locaux, ceux que vous avez dans la ville et qui font très bien leur travail, n'auraient pas suffi ?
Bon, parce que ça rassure la population et ensuite, lorsqu'on veut intercepter, on peut le faire. On peut intercepter un scooter, mais il faut s'en donner les moyens. C'est ce qui a été fait. Si vous vous positionnez à différents endroits d'un secteur, des policiers qui ensuite peuvent fermer la voie à la circulation, ça va être plus simple pour les intercepter. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Il y a des scooters qui ont cherché à leur échapper et ils ont réussi à les intercepter, entre guillemets, en douceur, en empêchant tout simplement qu'ils poursuivent leur chemin, et sans les poursuivre eux-mêmes et sans les tamponner comme ce qu'on peut imaginer parfois en Grande-Bretagne. D'ailleurs,
c'est
pas tout à fait la même hypothèse,
en France,
puisqu'en Grande-Bretagne,
elle est interdite
apparemment. Enfin, interdit, c'est-à-dire que les policiers ont des instructions pour pas le faire.
Absolument.
Mais en Grande-Bretagne, on utilise cette méthode lorsqu'il y a une infraction grave qui a été commise auparavant, des vols, par exemple, de sacs à main, etc., où c'est possible. Bien sûr, il faut éviter, parce qu'on est quand même en présence parfois de jeunes adolescents plutôt inconscients, on va pas rajouter un drame à une infraction qui pose problème. J'étais parlementaire en 2008, on avait voté la possibilité de poursuite par drone. Le Conseil constitutionnel l'a rejeté. C'est dommage, parce que l'idée, c'est d'identifier les personnes. Ma police municipale, l'an dernier, on en a identifié une cinquantaine. Il y a une vingtaine qui ont été appréhendées par la suite. Ça demande aussi des moyens en effectif et effectivement une volonté à la fois administrative de l'État, mais aussi une volonté de la justice, d'ailleurs, de condamner. Moi, je vois à Paris récemment une condamnation à 2 ans de prison, dont un an de prison ferme pour quelqu'un qui s'est enfui de manière extrêmement dangereuse dans les rues à Paris. Je trouve que la sanction est insuffisante. À Marseille, on a un multirécidiviste qui prend une sortie d'autoroute à contresens. Vous imaginez le risque qu'il a fait courir aux agents, à la circulation, aux personnes qui roulent sur cette autoroute et sur cette bretelle. Un an de prison, 2 ans, je crois que c'est un an de prison ferme. Il faut savoir qu'un an de prison ferme, il ne va pas l'exécuter. Hein. Et là, il faut vraiment... une réponse pénale ferme, claire et suffisamment forte pour qu'on se rende bien compte que c'est une infraction d'une particulière gravité qui agace de plus en plus nos habitants et qui crée un trouble à l'ordre public.
Donc pour
un scooter qui circule à 2h du matin, qui traverse la ville.
Oui. Éric Strohmann, donc pour vous, il faut une refonte de la loi. La loi de 2018 est insuffisante en ce qui concerne les rodéos urbains.
Sur certains aspects, le drone, je ne vois pas pourquoi le Conseil constitutionnel a rejeté. Il faut aussi revoir la question de des véhicules loués, parce qu'il y a une totale impunité. On n'arrive pas à identifier les conducteurs parce que le véhicule est loué à l'étranger, en Allemagne, en Pologne. C'est ce que je rencontre chez moi à Colmar. Je sais que ça existe également en région parisienne. Il faut qu'on puisse également immobiliser ces véhicules loués et puis mettre à contribution les loueurs qui savent très bien que leurs véhicules qui louent très cher permettent de commettre des infractions au code de la route du côté français. Donc il faut refondre de ce côté-là la législation, et ensuite il y a aujourd'hui un dispositif pénal qui existe, mais là il faut que la politique pénale soit très claire. C'est désormais devenu une infraction extrêmement grave et qu'il faut sanctionner à la hauteur du trouble qui est créé à l'ordre public.
Dernière question en ce qui concerne les rodéos urbains, est-ce que vous ne pensez pas que la clé en tout cas serait plus d'éducation, plus de pédagogie?
Bien sûr, mais on est quand même. C'est un phénomène quand même objectivement assez limité. C'est une dizaine de gamins dans un quartier qui fait 15 000 habitants et qui font régner leurs lois sur la voie publique et qui ne sont pas accessibles à la pédagogie, si vous voulez. Et ils n'entendent que la répression. Et à un moment donné, il faut appliquer la répression aussi.
Autre sujet vous concernant, les Républicains et la présidence du parti qui se profile. Votre cœur, il est plutôt à Ciotti, à Dati, à Pradier. Pourquoi pas vous, d'ailleurs ?
Non. Enfin, Par contre, je serais très favorable à ce que le maire de Cannes se présente. Je pense qu'il faut des élus de terrain qui soient pas trop coupés des réalités de terrain. Et je pense que mon collègue maire de Cannes ferait un excellent candidat. Attention de ne pas trop cliver notre parti. On est un parti aujourd'hui en déclin. Il faut se ressaisir, se repositionner et être crédible aux yeux de nos concitoyens. Mmh. On a quand même perdu beaucoup d'électorat, hein. Et là, je crois qu'il faut vraiment se ressaisir et sortir aussi des appareils politiques, avoir une vision également de l'après-Macron, l'après-Macron, parce que Macron, maintenant, on sait, ça va être son dernier mandat, et construire avec une partie certainement de la majorité macroniste la suite de l'après-Macron et s'inscrire dans cette dynamique.
Alors, on va essayer de
titre personnel, il ne faut pas faire d'antimacronisme. Oui,
je comprends. Pardon. On va essayer, Eric Strauman, on a un petit décalage, mais on va essayer de continuer. Juste pour comprendre là où vous vous positionnez, le grand débat sur l'immigration à la rentrée, c'est ce qu'a demandé Gérald Darmanin. Vous y êtes favorable? Est-ce qu'on a encore le temps de débattre aujourd'hui en France, vous qui demandez des actions?
Alors, le débat sur l'immigration, c'est un sujet extrêmement délicat, puisque c'est aujourd'hui à la fois une contrainte économique, on voit bien dans le domaine de l'hôtellerie-restauration qu'on cherche à trouver de la main-d'œuvre. Il faudra qu'on réfléchisse sur la question de l'immigration choisie, très clairement, avec des gens qui viennent de notre pays pour travailler, et il faut pas éluder ce sujet. Ensuite, on vit des grands bouleversements. Il faudra s'attendre aussi à une pression sur l'Europe en raison du changement climatique, en raison des conflits, et qu'on trouve aussi un équilibre avec la nécessité d'accueillir des réfugiés. Mais ça, c'est un débat permanent qui, en réalité, est tranché par l'administration, puisque c'est elle qui va délivrer les titres, puisque l'administration a des marges de manœuvre, et c'est elle qui va délivrer les titres qui permettront aux étrangers de gagner notre pays.
Vous avez beaucoup de convergences, notamment les Républicains avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez toujours comme une force d'opposition au gouvernement? Est-ce qu'avoir des convergences n'empêche pas aussi les divergences, j'allais vous dire? Comment est-ce que vous vous positionnez?
Moi, à titre personnel, je vais vous dire, j'ai voté au premier tour pour le candidat LR, la candidate LR, Valérie Pécresse, que j'ai soutenue aux primaires. Je pensais que c'était une bonne candidate. Et au second tour, j'ai voté sans état d'âme Macron. Et je pense aujourd'hui, il faut travailler avec Macron. Le pays est quand même dans de grandes difficultés. Je ne veux pas aujourd'hui ouvrir un débat, par exemple, sur le sujet de la délinquance. Je suis totalement en phase avec notre ministre de l'Intérieur qui travaille travail, qui mouille sa chemise pour trouver des réponses par rapport aux problèmes qui se posent et ne pas avoir un discours simpliste. Et il faut s'inscrire vraiment sur la suite de l'après-Macron et on ne pourra pas se passer d'un Bruno Le Maire, d'un Darmanin ou d'autres gens qui sont venus de nos rangs et qui sont aujourd'hui au gouvernement.
Merci beaucoup, en tout cas Éric Strauman, maire de Colmar, d'avoir accepté mon invitation et merci surtout pour la transparence de vos réponses. À suivre sur Europe 1. Ça fait débat. Faut-il, comme certains de nos voisins européens, favoriser les voyages en train alors que les prix de l'énergie augmentent sans cesse et que le réchauffement climatique s'installe considérablement dans le monde entier? On en débat dans un instant sur Europe 1, bien sûr. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Ça fait débat sur Europe 1 ce soir. Alors que les prix de l'énergie augmentent, plusieurs pays voisins cherchent à encourager les trajets en train, notamment à l'aide de tarifs attractifs jusqu'à la gratuité pour alléger le budget des ménages et limiter les émissions de CO2. On en débat avec vous, Eva Sas. Bonsoir. Bienvenue. Porte-parole du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, députée de la 8e circonscription de Paris. Jean-Philippe Dugoin-Clément, bonsoir.
Bonsoir.
Maire de Mennecy, vice-président de la communauté de communes du Val-d'Essonne, vice-président de la région Île-de-France. Et puis, à distance avec nous dans un instant, Benoît Borda, député Renaissance de la Côte d'Or. Vous vous souvenez de ce slogan des années 90 ? À nous de vous faire préférer le train. Bah, pas sûr qu'on soit d'accord avec ça aujourd'hui. Vous allez me répondre. Parce que le train, c'est devenu tellement cher qu'on doit probablement choisir entre prendre le train à la dernière minute pour une urgence familiale, par exemple, ou se nourrir. J'ai fait un essai tout à l'heure, j'ai pris mon téléphone. Vous savez, il y a une application SNCF et j'ai tapé, comme ça, par hasard, un Bordeaux-Paris ou un Paris-Bordeaux. D'après vous, Eva Sas, tiens, combien ça coûte là, tout de suite ?
Paris-Bordeaux, 200 euros.
C'est exactement ça, 200 euros. Il faut aujourd'hui devoir faire des choix. On adorerait se passer de la voiture. Ce serait formidable, ça nous coûterait moins cher, on polluerait moins, voyez ? Mais on ne peut pas, on fait quoi ?
Bah, justement, vous parliez des expériences qui sont faites aujourd'hui en Allemagne et puis à la rentrée en Espagne. Je pense qu'il faut tout à fait s'inspirer de ces expériences qui permettent, en l'occurrence en Allemagne, de mettre pour 9 euros par mois tout le réseau régional à disposition des gens. Le train devient accessible et il y a eu un engouement terrible en Allemagne. Et je pense que c'est vraiment une expérience très positive. On cherche des mesures pour aider le pouvoir d'achat. Là, c'est une mesure de pouvoir d'achat qui, en plus, respecte l'environnement et qui permet d'aller vers le modèle qu'on souhaite, c'est-à-dire un modèle moins dépendant de la voiture. Je crois qu'on a tous conscience maintenant qu'on a besoin de se libérer de cette dépendance à la voiture. Ça fait partie de la solution. Et vous avez tout à fait de raison de dire que non seulement c'est cher, le train, mais en plus, c'est complexe, les tarifs. Et donc, le bénéfice de cette mesure, c'est aussi ça. C'est la simplicité du tarif, parce qu'aujourd'hui, on ne s'y retrouve plus dans la jungle des tarifs, y compris dans ceux de la SNCF.
Alors justement, Benoît Borda nous rejoint à l'instant, à distance, député Renaissance de la Côte d'Or. Monsieur Borda, est-ce que c'est un sujet sur lequel le gouvernement travaille ? Eva Sas en parlait à l'instant, l'exemple allemand qui marche très fort, ce fameux ticket pour 9 euros environ qui permet l'accès à plusieurs transports en commun. Ça pourrait être une possibilité ?
Oui, alors je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit parce que il y a d'un côté, vous l'avez dit, les tarifs assez chers, c'est vrai, des lignes à grande vitesse, des grands trajets, on va dire, nationaux, quand vous faites Paris-Bordeaux ou même quand vous faites, moi, Paris-Dijon, qui sont des tarifs assez élevés. Et puis, il y a les tarifs régionaux avec les TER, et là, c'est de la compétence qui est plutôt des régions, où les régions, elles ont déjà pris en main toute la question de la tarification, en faisant des tarifications pour les jeunes, pour les personnes sans emploi. Et donc, il y a des régions qui sont très volontaristes, comme en Bourgogne-Franche-Comté, je le cite, c'est ma région, avec des tarifs qui ont permis de retrouver de la présence dans les réseaux, dans les trains, et donc qui ont révélé une certaine efficacité. Maintenant, sur le réseau des grandes lignes, c'est vrai qu'il y a une question tarifaire qui est importante, qu'il faut évoquer. Et puis, il y a une volonté, alors on ne l'a pas dit, mais il y a une volonté du gouvernement à la fois de s'occuper, en lien avec les régions, des petites lignes, du désenclavement des territoires ruraux, et puis un objectif aussi de développer les lignes à grande vitesse, les grands trajets nationaux, voire les grands trajets européens.
Vous êtes Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région Île-de-France, votre confrère Benoît Borda, que l'on vient d'entendre. appellent notamment à la présidence des régions d'agir, de prendre leur part de responsabilité. Qu'en pensez-vous ?
Elles le font. Il y a véritablement deux sujets. Il y a les transports LGV et les transports du quotidien, des réseaux urbains, des grandes agglomérations. Sur les grandes agglomérations, si on prend l'exemple de l'Île-de-France, on est sur des tarifs qui sont relativement bas. On est sur un pass Navigo à 75 euros. On est sur une carte imaginaire pour les étudiants à moins de 1 euro par jour pour bénéficier de l'ensemble des transports et d'autres réductions. Et le problème ne joue pas tant en termes de gratuité qu'en termes de qualité de service. Les études sur ce type de réseau qui ont été faites montrent que la gratuité n'entraîne pas d'effet de report ou alors sur des gens qui utilisaient essentiellement le vélo ou la marche à pied en secteur très dense. Donc sur les réseaux denses, le problème est plus la qualité de la desserte, le nombre de dessertes, le désenclavement d'un certain nombre de zones, et ça nécessite de l'investissement. Mettre la gratuité sur ces secteurs-là, c'est supprimer 30% de recettes et c'est donc ne plus être capable d'investir. En Île-de-France, on est sur un des régions avec le ticket de métro le plus bas. On est à 1,90€, vous allez à New York, c'est à 3€. À Londres, c'est plus élevé. Donc, on est déjà sur des tarifs
le pouvoir d'achat
qui sont
n'est pas le même, ni
extrêmement bas.
À New York,
mais
hein, remettons les choses
aussi
sur un
très
niveau.
Bas et on a des aides ciblées sur les chômeurs, sur les personnes âgées, sur les jeunes. Le problème qui se pose beaucoup plus, et là, c'est la concurrence avec l'avion et avec la voiture, c'est sur les grandes lignes, c'est sur les grands transports, où là, il y a des expérimentations effectivement qui sont lancées dans d'autres pays qui peuvent être intéressantes. Et moi, je suis curieux de voir ce qu'elles donnent en termes d'effet report sur l'usage qui est fait par les voyageurs.
On va en parler dans un instant. Vous parliez de concurrence, justement. Est-ce que la SNCF, elle, manque de concurrence et donc peut faire les prix qu'elle veut en réalité ? Vous vous rappelez les factures de téléphone mobile avant qui étaient exorbitantes et d'un seul coup, Free est arrivé sur son cheval blanc, etc. Et ça a quand même drastiquement baissé, c'est une réalité. Il y a des concurrents qui sont en train de se positionner par rapport à la SNCF, notamment dans le Grand Ouest. Ils ont encore du mal à pouvoir récolter les fonds nécessaires pour faire cette fameuse ligne avec le Paris-Bordeaux, aller à La Rochelle ou aller plutôt du côté de Poitiers. Est-ce que la concurrence est vaste pour vous ? Ce serait positif, une concurrence positive pour avoir un meilleur prix.
Non, je crois que ce n'est pas la piste qu'il faut explorer. Je pense qu'il faut vraiment, pour le coup, une aide massive de l'État sur cette question-là, avoir une vraie volonté politique de développer l'offre ferroviaire. Et vous aviez raison, pour qu'il y ait un véritable report modal, il faut une alternative, il faut donc des financements, oui, pour développer l'offre ferroviaire. Et c'est pour ça que Jean-Pierre Farandou, par exemple, demande 100 milliards sur 15 ans, la moitié à la charge.
110 milliards exactement, c'est ce qu'il a demandé.
La moitié à la charge de l'État. Ouais. Et je pense qu'il faut suivre Jean-Pierre Farandou sur cette loi, parce que c'est vrai que pour avoir un véritable engouement et une véritable offre qui aille jusque dans les territoires au plus fin, qui soit une véritable alternative à la voiture, on a besoin d'un investissement massif. Alors vous allez me dire comment on finance tout ça, surtout si on fait le ticket climat à 30 ou 50 euros comme c'est proposé maintenant par les écologistes en Allemagne.
On va demander à Benoît Bordin, si vous le permettez. Benoît Bordin, on a l'enveloppe des 110 milliards d'euros pour aller au secours de la SNCF ?
Bon, on a trouvé des enveloppes à un moment donné quand il a fallu renflouer la SNCF. Et bon, je voudrais revenir sur l'ouverture à la concurrence. Moi, je pense que la concurrence, elle a évidemment du bon. Elle permet de booster les différents opérateurs, d'obliger la SNCF à bouger. Il vous aura pas passé par ailleurs que la SNCF, là, elle a annoncé une commande à Alstom de 15 rames de TGV pour 590 millions d'euros. Donc, d'ailleurs, la période 2024-2034, je crois que c'est une centaine de rames TGV. Donc la SNCF, elle passe un cap avec des rames TGV qui vont être moins consommatrices d'énergie, qui vont permettre de transporter plus de passagers. Donc on peut espérer aussi que ça participe au développement de l'offre de service et d'une baisse des prix à moyen terme.
D'accord. Le carburant, lui, il a drastiquement augmenté ces derniers temps. On est tous impactés, même si ça devrait baisser un petit peu là, septembre, octobre. Mais ça ne va pas durer, hein, malheureusement. Malgré les lois, malgré les boucliers tarifaires, dans le même temps, la planète se réchauffe. On ajoute à cela que le pouvoir d'achat est en train de diminuer. On ajoute à cela que l'inflation est en train d'augmenter. Comment on incite les concitoyens à laisser la voiture au garage pour préférer le train alors qu'ils n'arrivent même pas à acheter une baguette de pain ?
Mais c'est ce qu'on disait, c'est qu'il faut une mesure qui soit pérenne. Parce que comme vous le dites, quand on achète sa voiture, déjà c'est un coût. Ensuite, il faut payer l'assurance. Donc ce n'est pas une mesure, comme ça a été mis en Allemagne pour 3 mois, qui va vous inciter à abandonner votre voiture. Donc il faut vraiment une mesure pérenne, simple, comme on le disait, avec un forfait mensuel qui permette d'avoir une lisibilité dans les tarifs. Et puis, il faut améliorer l'offre, c'est ce qu'on disait pour le coup. Et je reviens à la question du financement. Nous avons une proposition. Nous sommes un peu des Robin des Bois, donc nous proposons en l'occurrence d'être les Robin des Bois des transports, de prendre à l'avion, de prendre à l'avion pour donner au train. Et nous proposons par exemple d'avoir une éco-contribution sur l'aérien. Aujourd'hui, l'aérien est une forme de petit paradis fiscal. Comme vous le savez, il n'y a pas de taxe sur le kérosène, il y a une TVA réduite sur les billets d'avion. Donc si on avait une éco-contribution comme le proposait la Convention citoyenne pour le climat, on pourrait dégager ces financements qui sont nécessaires à la fois pour financer ce ticket climat et pour financer l'amélioration des réseaux.
Vous êtes d'accord, Jean-Philippe Dugoin-Clément ? On enlève à Paul, on le déshabille pour habiller Jacques, en fait, vous savez cette expression ?
Là, c'est effectivement, c'est tirer la couverture d'un côté ou de l'autre, mais ça n'est pas augmenter massivement les investissements sur les transports en commun. Alors, on peut se poser la question de l'aérien. Ce qui est vrai de l'aérien, on est sur un secteur qui a été totalement sinistré avec la Covid et entre les propositions de la Convention climat qui ont été faites avant Covid. Enfin, quand on prend le sauvetage d'Air France par le gouvernement, c'est plusieurs milliards qui ont été réinjectés pour sauver une compagnie nationale. Est-ce qu'il fallait le faire ou pas ? On se rend compte que le secteur aérien revient assez rapidement sur un étiage pré-Covid en termes d'activité, donc la question pourra se reposer. Mais on sort quand même de deux années où on aurait tué un secteur avec des dizaines de milliers d'emplois induits. Le véritable problème aujourd'hui sur les transports du quotidien en termes de RER, mais on pourrait en termes de grandes lignes, mais on pourrait poser la question également des bus, parce qu'il y a des endroits où le secteur bus avec des bus propres sont aussi une solution quand on est sur des zones beaucoup plus rurales ou beaucoup moins urbaines. C'est une question d'investissement massif pour garantir une qualité de service. On s'axe énormément sur le coût. Très sincèrement, le principal problème, le coût est une réalité, mais le principal problème, c'est le niveau de desserte. Quand vous êtes dans des secteurs ruraux, avec deux ou trois dessertes le matin, deux ou trois dessertes le soir, une heure d'écart entre chaque desserte. Le problème n'est pas de savoir si vous payez 75 euros de passe Navigo remboursé à 50% par votre employeur, mais si vous pouvez avoir un train ou un bus qui vient vous chercher et vous ramener chez vous.
Je vais vous donner la parole dans un instant, Eva Sasse, mais Benoît Borda, je rappelle que vous êtes donc député Renaissance de la Côte d'Or. Cette grande question...
Alors, c'est important que vous le disiez, la Côte d'Or, parce que moi j'ai une circonscription avec une partie très urbaine où on n'a pas de problématique de transport en commun, où tout se passe bien, où c'est facile finalement de quitter sa voiture, de prendre le vélo, de faire la marche à pied. Mais j'ai 76 communes dans cette circonscription, dont une soixantaine sont des communes très rurales et très peu sont desservies et ne peuvent pas être desservies par des trains. Donc la
mais
voiture.
Que fait Renaissance alors ? Que fait le gouvernement ? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre puisque vous le reconnaissez ?
Il y a les perspectives sur la possibilité d'acquérir en location des véhicules électriques pour 100 euros par mois. Mais il y a aussi, on est en lien avec les maires en local, c'est aussi de promouvoir des lieux pour faire du télétravail avec des maisons de service en rural pour que les gens aient moins de déplacements à faire et puissent finalement travailler sur leur lieu de vie. Ça, c'est des options sur lesquelles moi je travaille sur ma...
Monsieur Borda, vraiment la solution voiture électrique ou télétravail, non, la vraie solution, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les petits villages à qui on ferme les gares et où il n'y a plus de TER ? Parce que la solution, vous pensez bien, soyons sérieux, c'est pas la location de voitures électriques.
Oui, ben bien sûr, mais alors, sur celles où il y a des gares ou des possibilités de rouvrir des gares ou des petites lignes, il y a aujourd'hui des perspectives sur des trains légers. Là, il y a une expérimentation qui doit être menée à partir de 2024, alors sur des territoires que je ne connais pas encore, mais avec des trains légers qui pourraient fonctionner à hydrogène ou électrique et qui permettraient plus de souplesse et de rouvrir des petites lignes. Et aujourd'hui, pareil, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a des zones dans le cadre des contrats de plan État-région qui ont été faits entre l'État et les régions pour rouvrir des petites lignes. Je rappelle qu'il y a près de 1500 km de réseau au niveau national de petites lignes qui ont été rénovées et qu'on va pouvoir poursuivre la rénovation et la remise en place des petites lignes dans les différents territoires.
On a les moyens, vous nous le confirmez.
Il y a des moyens qui sont mis en place à travers les contrats de plan État-région et à travers les investissements de la SNCF.
Eva Sasse, vous êtes d'accord avec tout ça ?
Il y a effectivement eu un appel à projet transport urbain qui a été lancé, donc il finance des tramways et puis comme vous le disiez, des bus au niveau de service. Et c'est vraiment cette problématique du dernier kilomètre qu'il faut traiter effectivement pour avoir une véritable alternative à la voiture. Ça a été dit, dans ce que propose Jean-Pierre Farandou, par exemple, il propose des RER métropolitains autour de 13 grandes villes en France. Déjà, on va avoir beaucoup plus de gens qui seront desservis par cette offre de service. Donc, une fois de plus, il faut suivre Jean-Pierre Farandou, c'est le plan qu'il propose. Et puis après, il y a des solutions comme le covoiturage, le transport à la demande en milieu rural.
C'est quoi le transport à la demande ?
C'est des lignes virtuelles qui fonctionnent avec des petites navettes et qui s'arrêtent en fonction de la demande. Mais vous avez d'abord fait une demande préalable. Donc tout ça, c'est un ensemble de solutions. On sait très bien qu'en matière de transport, de toute façon, c'est...
Il n'y a pas de solution miracle.
Il n'y a pas de solution miracle. Il va falloir tout utiliser. Mais si on a une volonté, une constance pour aller vers un monde de transport qui sera moins dépendant de la voiture, je pense qu'il faut y aller de façon sérieuse. C'est pour ça que quand vous dites qu'il faut préserver le transport aérien, moi, je trouve ça dommage parce qu'en ménageant le chèvre et le chou, finalement, on ne fait pas de choix politique. Et là, je pense qu'il faut prendre une option claire. C'est pour ça que le ticket climat, c'est un très bon vecteur d'envoyer un message à la société. Voilà, la mobilité de demain, c'est la mobilité respectueuse du climat et c'est tout d'abord le transport ferroviaire qui va être le fer de lance de cette mobilité durable.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, je vous donne la parole dans un instant, Benoît Borda. Jean-Philippe Dugoin-Clément, le Luxembourg est allé encore plus loin. Dites-nous si c'est possible en région Île-de-France. D'accord, localement vraiment, notamment depuis le 29 février 2020, c'est le premier pays du monde à rendre tous les transports publics gratuits. Tous les transports, les bus, les trams, etc. Enfin, leur RER, etc. Pour tous, ils vont vraiment plus loin, pour les résidents et même pour les étrangers. Alors forcément, ça a un coût, 41 millions, financé par la fiscalité.
Très bien. En Île-de-France, la gratuité est quelque chose que nous ne prônons pas parce que c'est quelque chose qui n'est pas raisonnable et pas responsable.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Pour beaucoup de raisons. En fait, c'est une fausse bonne solution qui d'ailleurs n'est même pas demandée par les associations d'usagers des transports. La FNOT s'est prononcée contre, la FNOT qui est la Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports.
Et comment elle le justifie justement ?
Déjà, ça veut dire qu'en Île-de-France, c'est supprimer 30% des recettes de fonctionnement. 30% des recettes de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on n'investit plus. Sur une région comme l'Île-de-France qui a déjà un maillage de transport extrêmement dense, le problème est d'augmenter ce maillage de transport, de créer de nouvelles lignes et de renforcer la structure des lignes et donc d'investir. Et donc, c'est se priver d'un montant de recettes absolument colossal. La deuxième chose, mettre une gratuité des transports, outre le fait que ce qui est gratuit n'a plus de valeur et ça pose une question de respect même du matériel et de l'usage qui en est fait. La deuxième chose, c'est une très grosse partie des financements des transports sont prises par les entreprises au travers de la contribution transport. À partir du moment où on est sur une gratuité, les entreprises ne voudront plus payer. Il y a déjà des contestations de la part du MEDEF pour payer et donc on risque de tuer le financement des transports. En Île-de-France, nous avons déjà un tarif du billet, ce que je vous disais tout à l'heure. Si on prend en indicateur le ticket de métro, qui est un des plus faibles des grandes métropoles mondiales.
Mais qui a quand même sacrément augmenté en quelques années.
Le tarif du pass Navigo est stable. La carte imaginaire n'a pas augmenté depuis 6 ans alors qu'on est à 6% d'inflation cette année et qu'on a connu 11% d'inflation sur les 6 dernières années. Et dans les sujets que nous portons avec Valérie Pécresse sur la région Île-de-France, c'est de maintenir cet effort. On est à moins de 1 euro par jour pour les étudiants. On pratique des quasi-gratuités ciblées quand on est sur les personnes âgées, sur les jeunes, sur les chômeurs, au travers des aides qui sont prises. Et donc nous croyons beaucoup plus à des aides ciblées qu'à des aides généralisées qui, à la limite, vont bénéficier à des gens qui, pour certains, n'en ont pas besoin. Toutes les études que nous avons, y compris de la part de la SNCF, de la part de l'ensemble de nos partenaires, montrent qu'il n'y a pas d'effet de report modal. L'effet du report modal peut, peut se concevoir sur des grandes lignes, sur des TER, mais sur des réseaux du type d'un réseau comme en région Île-de-France, il n'y a pas de report modal.
Benoît Borda, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ?
Moi, je suis plutôt d'accord avec lui parce qu'on a cette même politique, nous, en région Bourgogne-Franche-Comté et même à la métropole de Dijon où j'ai été élu un certain nombre d'années, où on a souhaité garder un tarif sur l'utilisation du réseau de tramway, par exemple, mais à des moments occasionnels, par exemple comme cet été, donner la possibilité aux moins de 26 ans d'avoir le transport gratuit pendant les mois de juillet et mois d'août, voilà, pour leur redonner la possibilité l'été d'utiliser ces transports. Mais je pense que c'est essentiel qu'il y ait encore une ressource via un paiement par l'usager, en fonction de ses revenus, en fonction de sa situation professionnelle. Je rappelle aussi que les entreprises, elles peuvent prendre en charge une partie de l'abonnement en transport. Et donc, ça permet de garder des transports de qualité. Nous, ça nous permet aujourd'hui, par exemple, au niveau de la métropole dijonnaise, d'investir dans un site hydrogène, de porter les entreprises locales à un site de production d'hydrogène et d'ici moins de 10 ans, d'avoir un parc de bus qui fonctionne à l'hydrogène.
Eva Sas, qu'est-ce que vous pensez, vous, tout cela ? Pourquoi ? Juste une question, j'essaie personnellement de comprendre pourquoi en France, on est le seul pays qui ne travaille pas soit sur le ticket, soit sur la gratuité. Vous l'avez très justement expliqué, avec des raisons les uns les autres, mais Vous, qu'en est-il ?
Alors déjà, le ticket, ce n'est pas la gratuité.
Et, c'est 9 euros, c'est
9
ce
euros
dont vous aviez
par mois. Et c'est vrai que ça ne va pas être pérennisé à ce niveau-là. On espère que ça sera pérennisé à un niveau plutôt entre 30 et 50 euros par mois, ce qui n'est pas le même niveau. Mais je vais être d'accord avec les interlocuteurs précédents pour dire qu'il faut préserver l'investissement. C'est vraiment fondamental. Mais on peut faire les deux en même temps. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit sur l'éco-contribution, mais vous défendez l'aérien, pardon. Hein. Mais c'est quand même
Je vous dis que vous n'irez pas à New York ou à Pékin en train. C'est une réalité. Et si vous voulez demain mettre au chômage l'ensemble des salariés d'Air France ou du pôle de Roissy, il faut le dire aussi.
Il faut
défendre le train sur des courts moyens trajets, sur des trajets nationaux, sur des trajets européens, ce qui est une évidence, et dire qu'il faut supprimer l'aérien et mettre en faillite Air France, il y a quand même des limites. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Non, parce que c'est vous qui caricature mon propos. Je n'ai pas dit qu'il fallait supprimer l'aérien. Je trouve qu'aujourd'hui, au contraire, il bénéficie d'énormément d'exonérations fiscales. C'est pour ça que l'avion est peu cher et qu'il se développe de plus en plus. Il faut avoir une fiscalité normale et qui prenne en compte le climat sur l'aérien. Et donc, une éco-contribution qui pourrait aller de 30 euros sur les vols intérieurs jusqu'à 400 euros sur les voyages en affaires à l'international, ça me paraît juste parce que d'abord, ce sont les riches qui utilisent l'avion. Et ça paraît en même temps une source de financement nécessaire, on vient de le voir et vous en avez parlé aussi, pour développer l'offre de transport en France.
L'avion, parfois moins cher que le train, peut-on donc dire que ce sont les riches qui utilisent l'avion plutôt que les plus pauvres ? Est-ce que ça n'est pas caricaturer ce qui se passe aussi en ce moment ?
Aujourd'hui, il n'y a que 2% des ouvriers qui utilisent l'avion.
Mais prennent-ils le TGV ? Parce que comparativement, les prix sont très cher aussi au niveau des TGV sur les longues distances.
Oui, il y a des prix qui sont très chers. Ça tout dépend en fait effectivement de la liaison
dont
vous parlez.
Opposer forcément l'aérien et malheureusement le réseau ferroviaire.
Ah si, je pense qu'il faut l'opposer tout à fait parce qu'il y a une concurrence et qui est parfois déloyale justement parce qu'il y a une fiscalité qui est trop faible. Mais de façon générale, en tout cas les gens qui prennent régulièrement l'avion, ce sont évidemment les plus aisés. Ça a été attesté par toutes
les... Vous parlez donc de régularité.
Par toutes les études, oui, mais même quand on prend les gens qui prennent une fois de temps en temps l'avion, ça reste les classes moyennes supérieures. Sur 100 passagers, il y a 27% des gens qui sont issus des classes supérieures et 2% d'ouvriers. Je pense que le chiffre est quand même parlant. Mmh. Donc c'est clair qu'il faut notamment taxer ce qu'on appelle les super émetteurs, les gens qui prennent très souvent l'avion et qui, eux, ont un impact fort sur le climat. Moi, ça me fait toujours vraiment mal au cœur quand on va taper le petit automobiliste sur son litre de carburant ou de diesel et qu'on ne va pas mettre de 1 euro de taxe sur le kérosène de ceux qui sont les plus riches et qui émettent le plus. Benoît, donc moi, je pense qu'il faut un peu de justice là-dedans. Et
de l'équité, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Benoît Borda, ce serait possible ce que vient de proposer Eva Sas, taxer aussi les gens qui prendraient beaucoup l'avion, qui auraient des abonnements
en particulier. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comparer, c'est si on a une alternative possible. C'est-à-dire si vous allez sur un déplacement où vous n'avez pas d'alternative en train pour aller rapidement, par exemple, faire un Paris-Pau, et que c'est plus simple. D'ailleurs, on a des collègues députés qui sont obligés de prendre l'avion parce qu'ils n'ont pas de desserte de train ou qu'il leur faudrait 12 heures ou 15 heures pour en prenant le train. Donc là, moi, je suis assez d'accord qu'on pénalise ceux qui auraient le choix entre l'avion et le TGV. Mais quand on a, comme moi...
Rapidement, 10 secondes, Benoît Borda.
Voilà, il faut, mais autrement, il faut surtout privilégier le développement du train, des petites lignes et puis des lignes à grande vitesse, comme on le prévoit.
Noté. Merci beaucoup, Benoît Borda, député Renaissance de la Côte d'Or. Merci beaucoup, Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire LR de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France. Merci beaucoup, Eva Sas, porte-parole du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, députée de la 8e circonscription de Paris. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, on reçoit Christiane Lambert. On se parlera de tout ce qui se passe aussi du côté des agriculteurs. Et c'est pas la folie, hein. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Il est 19h. Europe 1, le journal de Wilfried Devilleur, un mort et un blessé grave après un refus d'obtempérer dans l'agglomération lyonnaise.
C'était la nuit dernière, deux policiers ont tiré sur le conducteur et le passager d'une voiture, deux enquêtes sont ouvertes. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine en faveur d'une mission d'inspection de la centrale de Zaporijjia, les présidents français et russes se sont parlé au téléphone tout à l'heure. Record de démissions en France au premier trimestre 2022, plus de 500 000, des chiffres à prendre avec précaution alors qu'ils ne riment pas forcément avec une mauvaise
mauvaise santé de l'économie nationale. C'est même le contraire, vous l'entendrez. Enfin, deux figures mythiques des chiffres et des lettres claquent la porte de l'émission. Bertrand Renard, l'homme des chiffres, et Ariel Boulin, Madame Dictionnaire. Ils n'acceptent pas la nouvelle formule de l'émission.
Sans transition, la tendance météo, Anthony Kazmarek.
C'est une nette amélioration qui nous attend pour demain avec de belles éclaircies pour presque tout le monde, notamment dans l'après-midi. Les températures sont toujours de saison, 20 à 27 dans la moitié nord et 25 à 33 dans le sud.
Europe 1. La police a une nouvelle fois ouvert le feu après un refus d'obtempérer.
C'était la nuit dernière à Vénissieux, en banlieue lyonnaise, des tirs contre les passagers d'une voiture. Bonsoir Guillaume Dominguez.
Bonsoir.
Le passager est mort, le conducteur, lui, est dans un état grave.
Oui, les deux hommes étaient connus des services de police, l'un pour vol et recel, le second pour braquage à main armée, cambriolage et trafic de drogue. Tous les deux se trouvaient à bord d'une Renault Mégane la nuit dernière, garée sur le parking du carrefour de Vénissieux. Aux alentours de minuit, une brigade de quatre agents de police patrouille dans le secteur et au vu du comportement suspect des deux hommes, décide de vérifier la plaque d'immatriculation de leur voiture. Ils découvrent que celle-ci est volée. Les policiers s'approchent du véhicule pour effectuer un contrôle et c'est à ce moment que le conducteur manœuvre puis fonce en direction des agents. L'un d'eux est violemment percuté, il se retrouve sur le capot de la voiture et fait alors usage de son arme de service. Un second policier tire également en direction des deux hommes et les blesse mortellement. Malgré les premiers secours prodigués par les policiers et les pompiers, le passager âgé de 20 ans meurt sur place. Le conducteur âgé de 26 ans est hospitalisé en état de mort cérébrale. L'un des policiers est également pris en charge pour des blessures aux jambes. Le parquet de Lyon a ouvert deux enquêtes, l'une à l'encontre des deux délinquants pour refus d'obtempérer aggravé, l'autre à l'encontre des deux policiers. La police des polices cherche à comprendre dans quelles conditions ils ont fait usage de leurs armes.
Et le ministre de l'Intérieur, merci Guillaume, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur le sujet depuis la Corse. Gérald Darmanin a tenu à afficher son soutien aux policiers.
Je veux dire à tous les policiers et les gendarmes de France qui font face tous les jours à des refus d'obtempérer, puisqu'il y en a un toutes les demi-heures dans notre pays, madame, que je les soutiens et que je trouve très courageux la façon dont, de manière générale, ils travaillent de façon exemplaire. Et donc je veux apporter mon soutien aux policiers en général. Je laisse ce soin évidemment à la justice de pouvoir définir s'ils ont agi dans les conditions conformes au code de déontologie. Mais je veux remarquer une nouvelle fois que ces individus étaient très défavorablement reconnus des services de police, qu'ils ont refusé un contrôle de police dans une voiture volée. Il faut encourager nos policiers et nos gendarmes qui tous les jours risquent leur vie pour pouvoir rétablir l'ordre républicain. Et je ne doute pas un seul instant que chaque policier, chaque gendarme qui est père et mère de famille le fait. Et je ne suis pas de ceux qui doutent du travail de la police. A priori, moi, je fais confiance aux fonctionnaires qui sont sous mon autorité.
Gérald Darmanin, on le disait, le locataire de la place Beauvau était en Corse aujourd'hui, à Calvi, précisément dans le sud de l'île. Le ministre a confirmé que l'état de catastrophe naturelle sera bien décrété sur l'ensemble de l'île dès mercredi prochain. Une façon d'assurer une indemnisation plus efficace pour les sinistrés. Au lendemain de la tempête en Corse, l'heure est bien au bilan. On parle toujours ce soir de 5 morts et d'une vingtaine de blessés. De nombreuses opérations de secours ont eu lieu tout juste après la tempête hier, notamment en mer, au large de la Corse. Des actions coordonnées par le CROSS, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage. Il a reçu plus d'une centaine d'appels hier. Le lieutenant Gabriel est pilote d'hélicoptère. Il fait partie de la flottille 36F, basée à Hyères. Il nous raconte cette journée hors norme.
Le CROSS nous appelle vers 9h45 du matin pour nous dire que la situation est hors de contrôle en Corse. Et en arrivant sur zone, effectivement, on voit un peu la désolation avec pas mal de bateaux drossés contre les rochers. La vision un peu d'apocalypse et de voir tous ces bateaux à la côte et tous ces déchets en mer, on avait l'impression qu'il s'était passé un raz-de-marée. Et tout de suite en arrivant, on voit des gens dans une petite crique qui sont en difficulté. Une famille sur un voilier. Leur voilier est coulé au pied des cailloux. On les élitreuille et donc on ramène cette famille de 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants, sur l'aéroport de Calvi. C'est là que le CROSS nous demande de les déposer et de refueler pour la suite de la mission. C'est un outil très pratique dans certaines situations. Effectivement, on a des capacités de récupération de gens dans des endroits qui sont inaccessibles par ailleurs, que ce soit par la mer ou par la terre. En tout cas, c'est très complémentaire des moyens nautiques de la SNSM.
Propos recueillis par Frédéric Michel, notre envoyé spécial en Corse. Elle a mis le feu au jardin de ses voisins en pleine période de sécheresse. Une quinquagénaire condamnée à un an de prison ferme par le tribunal de Nîmes aujourd'hui. La mère de famille s'en est prise à ses voisins après que ceux-ci se soient plaints du bruit lors d'une fête. L'incendie s'est rapidement propagé parcourant quelques 2000 mètres carrés de broussailles.
Après Volodymyr Zelensky en début de semaine, Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine.
Les deux chefs d'État ont évoqué la situation autour de la centrale de Zaporijjia. Bonsoir Nina Droff.
Bonsoir.
Un entretien soldé par ce qui semble être une avancée significative vers la sécurité de la centrale.
Oui, au téléphone avec Emmanuel Macron, Vladimir Poutine s'est dit favorable à ce qu'une inspection de la centrale soit organisée dans les plus brefs délais. Cette inspection serait menée par l'Agence internationale de l'énergie atomique avec pour objectif d'établir l'état de la centrale après les bombardements. Un signal positif selon Dominique Trinquant, général de l'armée de terre et spécialiste des questions de défense.
Il faut souligner que ça faisait presque 2 mois qu'il ne s'était pas parlé. Le président russe dit que les bombardements qui ont lieu sur la centrale met en danger tout le monde. Donc indirectement, bien sûr, il accuse l'Ukraine, mais il montre sa bonne volonté à monter une opération de visite de la centrale.
Le président russe a aussi accepté que cette mission se fasse sous contrôle gouvernemental de l'Ukraine, une condition très importante pour Volodymyr Zelensky, qui refuse de reconnaître la souveraineté russe sur la centrale occupée. Reste maintenant à voir si le président russe tiendra parole sur cet aspect. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine doivent se rappeler dans les prochains jours pour évoquer la logistique de la mission.
Merci Nina Droff. Conséquence du conflit ukrainien, la quasi-fermeture du gazoduc Nord Stream, les prix du gaz en Europe qui poursuivent leur envolée. À la mi-journée, le mégawattheure de gaz s'est changé à 249 euros, niveau record depuis l'invasion russe en Ukraine.
Quand la sécheresse perturbe la production de fromage.
Est-ce que vous connaissez le salers, ce fromage au lait cru typique du Cantal? Salers, c'est une appellation d'origine protégée et sa production est aujourd'hui à l'arrêt. Les 76 éleveurs de l'AOP subissent de plein fouet le manque d'herbes fraîches, Louise Douillet.
2 mois déjà que Laurent Roux parvient difficilement à nourrir ses 37 vaches laitières, faute de pluie et donc d'herbe en quantité suffisante.
C'est très près, c'est tout jeune, ça craque sous vos pieds comme si vous marchiez sur des biscottes.
Car les producteurs de l'AOP ont un cahier des charges très strict à respecter. Leurs vaches doivent manger au moins 75% d'herbe des pâturages. C'est ce qui donne une pâte bien jaune, pleine d'arômes. Mais aujourd'hui, la pénurie de salaire guette.
Sur 375 fromages, aujourd'hui, on n'en a fabriqué que 125. Après la Toussaint, je n'aurai plus du tout de fromage. Il faudra attendre l'année prochaine, au mois d'avril, pour reprendre la fabrication et attendre le 15 juillet, parce que c'est 3 mois d'affinage avant que le fromage parte dans le commerce.
Alors, pour l'éviter, le responsable de l'AOP, Laurent Lours, a adressé une demande de dérogation à l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité, pour revoir les critères à la baisse, minimum 50% d'herbe des pâturages plutôt que 75%.
On croise les doigts pour qu'il pleuve et que dans un mois on puisse repartir. Et l'objectif c'est d'essayer de perdre que moins de production quoi, sur les 6-7 qu'on avait, 15% de production en moins, et on arrivera à passer.
Le temps presse, le salers est un fromage saisonnier produit uniquement entre le 15 avril et le 15 novembre.
Louise Douillet, et puisque l'on parle d'alimentation, tient cette demande de plusieurs maires de France, de maires de gauche notamment, à Elisabeth Borne. Ils veulent que la première ministre leur donne la main sur la réglementation entourant les dark stores, ces entrepôts de préparation de livraison de courses. Des maires qui dénoncent la concurrence accrue pour les commerçants et les nuisances infligées aux habitants.
C'est une situation inédite. Depuis la crise de 2008, plus d'un demi-million de personnes ont quitté leur emploi volontairement entre janvier et mars.
Un phénomène qui rappelle celui de la grande démission que connaissent les États-Unis depuis maintenant 2 ans. Sauf qu'en France, Geoffrey Branger, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle.
Oui, c'est même une bonne nouvelle pour l'économie. Si l'on rapporte le nombre de démissions au nombre de salariés en France, on obtient alors un taux de démission de 2,7%. Pour que vous compreniez bien, ce taux est bas pendant les crises et il augmente en période de reprise. Concrètement, quand l'économie va bien, il y a de nouvelles opportunités sur le marché du travail, incitant donc à quitter son emploi plus souvent. Dans le contexte actuel, la hausse du taux de démission apparaît alors comme normale avec la reprise économique suite à la crise sanitaire. D'autres indicateurs viennent contrebalancer ces chiffres qui pourraient inquiéter, le taux d'emploi notamment. Bertrand Martineau, économiste spécialiste de l'emploi à l'Institut Montaigne.
Le marché du travail a été
extraordinairement dynamique, avec énormément de création d'emplois, et que les opportunités finalement de passer d'un emploi à un autre sont tout simplement beaucoup plus simples. Beaucoup de salariés utilisent cette vigueur du marché du travail pour se repositionner sur d'autres emplois. Tout simplement, aller voir ailleurs si les conditions salariales ou de travail sont meilleures.
Oui, parce que dans une période où de nombreux secteurs ont des problèmes pour recruter, les salariés sont en position de force pour négocier. En ce moment, 8 démissionnaires de CDI sur 10 retrouvent un emploi dans les 6 mois qui suivent.
Geoffrey Branger du service économie d'Europe 1. Votre santé et la décrue de la 7e vague de Covid qui se poursuit en France. Depuis aujourd'hui, Santé publique France ne considère plus ni les contaminations ni les hospitalisations à un niveau élevé. On parle de 23 600 nouveaux cas enregistrés hier. Mais attention, plus tôt cette semaine, Brigitte Autran, la présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, disait craindre une nouvelle vague de Covid à l'automne.
Si l'on vous dit consonne ou voyelle, à quoi est-ce que vous pensez?
C'est un jeu mythique du petit écran. L'un de ses objectifs, c'est de trouver le mot le plus long. Bonsoir Marie Jiquel.
Bonsoir.
On parle bien sûr de l'émission Les Chiffres et des Lettres. Avec ce coup de tonnerre, l'émission réduit sa diffusion. Ce ne sera plus que le week-end. Deux piliers du show ont donc annoncé leur retrait.
Bertrand Renard, maître de la calculatrice, et Ariel Boulin-Pratt, reine du dictionnaire, n'ont pas réussi à trouver un accord sur leur contrat avec la direction de France Télévisions, après des décennies à régner sur cette institution vieille de 50 ans. Alors, Wilfried, ils ne vous ont pas seulement appris à lire ou à compter, ils ont, sans le vouloir, marqué l'histoire de la télévision avec des séquences cocasses.
9 lettres, avec enculage au pluriel.
Enculage.
Oui, mais des mouches exclusivement.
Ah bah, si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis.
Donc, ah oui. Être extasié, c'est voilà, avoir pris de l'extasy et être un
et
peu...
Et vous y connaissez toutes les deux, là. Hein?
Nous n'avons pas... Enfin, moi, je n'ai pas expérimenté. Patricia, je ne sais pas.
Un petit peu.
D'accord.
Le hasard des lettres. Alors, on ne connaît pas encore le nom de leur remplaçant. Dernier au revoir le week-end du 10 septembre. Et on ne connaît pas encore le nouveau format du jeu qui a profité d'un petit lifting. On évoque un rendez-vous plus familial. Il faudra faire attention avec les lettres. Un rendez-vous qui convie toutes les générations. Rassurez-vous, le présentateur Laurent Romeschko reste fidèle au poste.
Voilà, en espérant qu'on n'oublie pas non plus les chiffres. On n'en a pas beaucoup parlé. Merci Marie Jiquel, spécialiste culture d'Europe 1.
Allez, sans transition. Soirée de football ce soir. C'est le début de la troisième ligue de la troisième journée de Ligue 1. Pardon, je reste sur enculage.
Voilà, et l'affiche de la soirée. On parle du football. L'affiche de la soirée, c'est l'Olympique lyonnais qui affronte l'Estac. 3 coups d'envoi à 21h. Bonsoir, Maxime Chech.
Bonsoir.
Vous êtes en direct du Groupama Stadium à Lyon.
Effectivement, l'OL aborde cette rencontre avec un appétit de Lyon. Les Rodaniens privés de match, on le rappelle dimanche dernier à Lorient, la faute à une pelouse impraticable. Et pour compenser, les joueurs de Peter Bosz ont effectué 2 oppositions de 45 minutes à l'entraînement. Mais rien ne remplace le terrain, comme l'a rappelé l'attaquant lyonnais Karl Toko Ekambi. Les Lyonnais 7e du classement avec un match en moins, donc veulent enchaîner un deuxième succès. Ce soir, ils recolleraient un...
Ah, Maxime Chech, on a perdu la connexion avec Maxime. Écoutez, le match, de toute façon, on va bien sûr en parler. Maxime Chech le suivra en direct pour Europe 1, un direct dans Europe 1 Sport, soirée de football. Bonsoir Éric Huette.
Bonsoir.
Votre invité, ce soir, c'est Bruno Cheroux.
Oui, le responsable de la cellule recrutement de Lyon, avec qui nous ferons un point sur les transferts. Nous lui demanderons si Lucas Paqueta va rester. Un OL toujours dirigé par Peter Bosz après une première saison décevante. L'entraîneur néerlandais, pour mieux réussir, doit-il s'appuyer sur le centre de formation lyonnais au moment où des joueurs ayant démarré à Lyon viennent se relancer dans la capitale des Gaules. Se relancer, c'est ce que cherche Troyes, qui a perdu ses 2 premières rencontres. Je savais que ça allait vous faire rire, Jeanne. Ça ne respire pas la sérénité. Nous demanderons à nos experts Jacques Vendroux, Marc Libra, Luc Sonor et Nabil Djellit si Troyes a déjà la tête d'un futur condamné.
Merci Eric, et puis on vous retrouve dans une petite heure, Jeanne.
Merci beaucoup pour ce journal magnifique, Wilfried. Il va falloir tenir encore une bonne heure. Allez, Anthony Casmarec.
Oui, j'ai quand même une météo à faire.
Le ciel.
Le ciel demain beaucoup plus calme que les jours précédents. Fort heureusement, on retrouve de très belles éclaircies sur tout le pays, notamment dans l'après-midi. Il y aura quelques brouillards le matin au nord de la Loire et encore quelques nuages qui traîneront. Ce sont les restes de la perturbation d'aujourd'hui. Le matin, donc, entre la Nouvelle-Aquitaine, le centre et le nord-est, avec encore quelques rares ondées orageuses parfois entre l'Alsace et le Jura. Le soleil toujours présent entre l'Occitanie et la Méditerranée grâce au Mistral.
et à la tramontane qui souffleront jusqu'à 70 km/h en rafale. Et puis donc dans l'après-midi, tous ces nuages vont se dissiper et vous aurez du soleil quasiment partout, à peine voilé entre la Vendée et la Gironde, et toujours quelques gouttes entre l'Alsace et les Alpes du Nord. Les températures demain, elles seront parfois fraîches. Au réveil, on partira de 9 degrés à Beauvais pour aller déjà jusqu'à 22 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, température de saison pour tout le monde. 21 degrés à Brest et à Cherbourg, 24 à Lille et à Saint-Étienne, 25 à Paris et à Strasbourg, 26 pour Nancy et Limoges, 29 à Bordeaux, 32 degrés pour Marseille et la maximale pour Perpignan avec 33 degrés.
Merci beaucoup Anthony Kaczmarek. Allez, à suivre sur Europe 1. Ce grand sujet, faut-il repenser notre agriculture entre canicule, sécheresse et inondation? Il en va de notre survie alimentaire. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, sera mon invité sur Europe 1 dans un instant. Restez bien avec nous, à tout de suite.
Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Entre canicule, sécheresse et inondation, la planète souffre, c'est indéniable, et nous sommes nombreux à être impactés, les agriculteurs, les premiers. Alors faut-il repenser notre agriculture, notre façon de produire? Bonsoir Christiane Lambert.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de la FNSEA. Est-ce qu'on peut, Christiane Lambert, d'ores et déjà dresser un bilan de l'été, de cette sécheresse que nous affrontons? Ce bilan pour les agriculteurs, est-ce qu'il est catastrophique? Est-ce qu'il est effrayant?
C'est historiquement grave, cet événement climatique. Nous avons eu un hiver très sec, un printemps chaud et un été caniculaire et sec. Donc c'est la pire des choses pour l'agriculture. Côté céréales, grains, orge, blé, les récoltes ont été à peu près correctes, mais avec des très grands écarts d'une région à l'autre. Ce qui souffre le plus en ce moment, ce sont les prairies, le maïs, les fruits, les légumes et la viticulture. Les vendanges ont commencé beaucoup plus tôt, mais il y a des raisins grillés, des raisins qui n'ont même pas mûri, ils ont desséché.
Pas exploitable donc.
Pas exploitable. Et puis la grêle ou les orages qui tombent en ce moment, là où les récoltes ne sont pas faites, ça peut tout mettre par terre. Donc ce sont vraiment tous les secteurs. 90 départements touchés, c'est jamais arrivé.
Le rôle essentiel de l'agriculture, c'est de nourrir l'homme. On est d'accord, c'est sa fonction régalienne, son ADN. Pour exercer ce rôle, l'agriculture, autrefois, s'était orientée vers un modèle productiviste. Ça peut faire peur, on en a encore là aujourd'hui?
Productiviste, c'est le mot qui avait été employé dans les années 60. Après la guerre, reconstruire l'agriculture, produire plus, parce que la France a augmenté sa population, les gens habitaient de plus en plus en ville, ne pouvaient pas donc avoir le potager, le jardin ou l'autosuffisance, et donc il fallait produire plus pour nourrir plus. Depuis 30 ans, des problématiques environnementales sont apparues, nous les intégrons, donc il faut produire plus et mieux. Mmh. Mais à l'échelle de la planète, la population augmente. Nous sommes 7 milliards, nous serons 9,5 milliards. Dans certaines régions, on ne peut pas produire. Voyez aujourd'hui comment la Russie et l'Ukraine, qui ont bouleversé le commerce du blé, mettent en situation de famine l'Équateur, la Somalie, le Sri Lanka et beaucoup de pays. Donc la question alimentaire, elle n'est pas résolue. Et comme la planète augmente, qu'il y a moins de terre pour produire, et qu'en plus le climat vient chambouler les équilibres, ça appelle beaucoup d'humilité dans la façon d'appréhender les choses. Donc il faut produire plus et mieux partout, sur tous les continents et pour tous les agriculteurs du monde. Et l'Europe doit y participer.
Bien sûr, et encore une fois, il y a des disparités en fonction des pays. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, d'après vous, Christiane Lambert, est-ce qu'il faut drastiquement faire une refonte globale de l'agriculture? Je m'explique. Ça veut dire création d'emplois, respect des équilibres sociaux, économiques, écologiques, prendre tout cela en considération?
Il faut prendre tout cela en considération. On a un défi alimentaire, il faut produire plus et mieux pour plus de bouches à nourrir partout. Il faut respecter la planète, il n'y a pas de planète B. On a un défi démographique extrêmement important en France et en Europe, c'est qu'on a 50% des agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Donc ils vont partir dans les 5 ans qui viennent.
Alors on
sait
quoi ?
C'est énorme. Eh bien il faut attirer des jeunes, salariés et agriculteurs, jeunes agriculteurs et salariés. Pour ça il faut un avenir meilleur, c'est-à-dire qu'il faut gagner sa vie. Des conditions de travail, d'exercice du métier qui soient plus favorables. Et tout cela, nous l'avons à l'esprit et nous y travaillons. Il y a une loi qui est en préparation, nous aurons des propositions. Mais ce qui est nouveau avec cette année, c'est l'accélération des réflexions. On savait que le changement climatique était là. Il se manifestait, j'allais dire, par-ci, par-là. On a eu un gros gel l'année dernière. Cette année, on a eu gel, sécheresse, grêle, canicule. On cumule les événements.
La totale.
Donc la prise de conscience, elle est totale. Il n'y a pas de climato-sceptique en agriculture. Tout le monde est tout boulot, se retrousse les manches pour dire qu'est-ce que je fais dans mon exploitation, dans mon entreprise, pour résister cette année et l'année prochaine. Et l'État l'a compris aussi. L'État dit, on va vous aider à vous assurer plus et mieux. Alors, on va faire de la solidarité nationale pour ceux qui perdent plus de 50% de leur récolte.
Vous n'avez pas le choix.
L'État dit, on va essayer d'améliorer le stockage de l'eau. Les pluies diluviennes qui tombent en ce moment, dramatiques d'ailleurs, avec aussi des décès, il faudrait pouvoir les capter, les stocker, les mettre en réserve pour le moment où il y aura moins d'eau. Cette eau sauvage appelle aujourd'hui une gestion plus anticipée, plus prudentielle de cette réserve rare, en plus de la sobriété. Hein. On est tous invités à faire hyper gaffe dans nos maisons, dans nos comportements.
Bien sûr.
Nous aussi en agriculture. Nos bâtiments d'aujourd'hui consomment beaucoup moins d'énergie qu'avant. Nous émettons beaucoup moins de gaz à effet de serre. Savez-vous qu'aujourd'hui on produit un litre de lait avec 23% d'émissions de gaz à effet de serre en moins par rapport à il y a 15 ans. Donc, on a chiffré les progrès de l'agriculture. Il faut qu'on améliore encore. On a aujourd'hui plus de recherches, des variétés nouvelles, des techniques nouvelles, des stations météo dans chaque exploitation nous permettraient de bien connaître l'évaporation en temps réel, l'eau dans les sols et d'apporter la juste dose au bon moment. Ça, c'est l'agriculture de précision à laquelle on aspire vraiment.
Alors, Christiane Lambert, vous parliez à un instant de faire venir la jeunesse, les motiver, leur dire « voilà, vous allez avoir un salaire », mais c'est pas facile, dis donc, d'être agriculteur. Il faut être passionné. Ensuite, il faut accepter de travailler tous les jours sans repos. C'est 7 jours sur 7. Quand on a des animaux, c'est comme un enfant tout petit. On doit toujours s'en occuper. Comment est-ce qu'on motive ces jeunes gens en leur disant « attendez, il faut être agriculteur, hein, vous avez un rôle hyper important, c'est de nourrir la planète. Mais en contrepartie, vous n'aurez plus de vie. » C'est compliqué.
Alors, il y a une vie parce que les jeunes agriculteurs envisagent les choses autrement que ma génération. La passion, c'est quelque chose qu'on a dans les gènes. Les jeunes agriculteurs, les jeunes qui ont envie d'être agriculteurs, le manifestent très tôt. Mais il faut des conditions de vie et de travail bien meilleures. Quand on a une épouse qui travaille à l'extérieur, on sait ce que c'est d'avoir des horaires. C'est vrai qu'en élevage, c'est beaucoup plus tenu, mais il y a beaucoup plus d'astreintes. Alors, il y a des réussites en agriculture, Dieu merci. On parle de ce qui va mal quand ça va mal, et il faut aider ceux qui ne vont pas bien. Mais il y a aussi de très belles réussites. Savez-vous qu'on a aujourd'hui plus d'ingénieurs agronomes qui viennent pour devenir agriculteurs et être leurs propres pilotes? Des gens qui travaillent à plusieurs, qui font appel à des emplois partagés. On a des groupements d'employeurs pour pouvoir prendre un week-end sur trois. Il y a une organisation qui se met en place. Et ce qui est déterminant aussi, c'est que depuis le Covid, les Français ont mesuré l'importance de l'agriculture. J'ai écouté un sondage la semaine dernière qui dit que les métiers plébiscités, scientifiques, médecins, agriculteurs, se soigner, rechercher, se nourrir tous les jours, trois fois par jour, il y a un agriculteur derrière votre assiette, sur la table, à côté de vous. Donc, manger, c'est très important. Et puis, Poutine et la Russie nous rappellent aujourd'hui qu'ils ont la main sur l'arme alimentaire. Si on ne veut pas être dépendant des désidératas ou des injonctions de Poutine, il faut produire en France.
On peut.
Et bien sûr qu'on peut. On produit déjà beaucoup de blé, mais on a laissé filer sur certaines productions. En 20 ans, on a perdu la moitié de nos surfaces de fruits. Parce que les conditions sociales et de production sont plus favorables en Espagne, en Italie ou en Amérique du Sud. On a pensé qu'on pouvait avoir un grand supermarché, le monde un grand supermarché, et on va faire ses courses via Amazon à l'autre bout du monde. Sauf que quand toutes les frontières se ferment ou qu'un dictateur édicte, là, tout d'un coup, on n'a plus l'approvisionnement.
Alors, Christiane Lambert, vous parliez justement de cette souveraineté à retrouver. Comment est-ce qu'on concilie souveraineté alimentaire et transition agroécologique? Ça veut dire produire plus, de façon plus durable, ici, en France. On fait comment?
Alors, c'est possible. C'est possible et c'est tout à fait conciliable. Alors, il faut évidemment, pour ça, se doter de progrès. Aujourd'hui, on a à notre disposition des variétés plus résistantes, des animaux plus résistants, des techniques de logement de nos animaux, des bâtiments d'élevage. Nous, on a fait un bâtiment il y a 5 ans dans lequel on a un échangeur d'air qui permet de remonter la température quand il fait froid, de la réguler quand il fait trop chaud, un système de rafraîchissement d'air. On a des capteurs de quantité d'eau dans les sols. On a des GPS qui nous aident à faire du téléguidage dans les exploitations agricoles qui nous permettent d'être très précis. Donc, on peut produire plus et mieux avec moins d'impact. Il faut réduire les impacts sur l'environnement, on en est tous conscients. Il faut préserver la biodiversité.
Ouais.
Mais par contre, cette transition, elle a un coût. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire mieux avec des prix pas chers.
Mais ça
n'existe
même,
pas.
Déjà, pour avoir toutes ces machines modernes, ils peuvent, les petits agriculteurs, aujourd'hui, du Gers, du centre de la France, de la Creuse, du Limousin, ils ont l'argent pour pouvoir se doter de ces machines?
Ce n'est pas qu'une question de taille, c'est aussi une question de production et de rentabilité de l'activité dans laquelle on est. Évidemment, il y a une rentabilité différente entre la viticulture dans certaines régions et d'autres. Il y a aussi eu un plan de relance. Le gouvernement a mis en place des dispositifs et des mesures pour aider les agriculteurs à s'équiper, faire cette transition verte. Beaucoup d'agriculteurs ont répondu, d'ailleurs, et très vite répondu. Plus de 35 000 agriculteurs, plus de 10%, dans le premier plan, ont déjà dit « Ok, moi je m'équipe avec du matériel plus performant pour réduire l'usage des phytos, pour faire du traitement plus ciblé et utiliser ainsi moins de produits, pour faire une récolte de foin plus appropriée au bon stade, avoir du meilleur fourrage, donc acheter moins d'aliments. » C'est ça, construire la résilience avec l'innovation et les techniques et les investissements rentables qui permettent d'avoir une meilleure efficacité dans nos exploitations. Et croyez-moi, les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ils savent compter, Ils regardent tout ça, ils vont très vite. Mmh. Ils ont des suivis via les réseaux sociaux pour avoir plus d'infos, via des enregistrements dématérialisés. Ils ne sont plus avec leur papier, leur crayon, comme on l'était auparavant. Et donc, ils ont une approche beaucoup plus positive.
Vous parliez à l'instant du président de la République, Emmanuel Macron. Il a été clair, Elisabeth Borne, la première ministre, doit faire ce qu'il appelle une planification écologique. Est-ce que ça vous a fait bondir, ça ?
Non, parce que pour tout vous dire, moi je préfère une planification écologique où on dit clairement, voilà, à moyen long terme, oui. l'objectif qu'on se fixe, c'est celui-là. Les moyens pour l'atteindre, ce sont ceux-ci. Oui. Plutôt que de dire, il y a un problème, on fait une loi, il y a un problème, on fait une réglementation.
Oui, mais est-ce que ça n'arrive pas avec un train de retard encore, Christine Lambert ?
Écoutez, mieux vaut tard que jamais.
Bon. Vous voyez le verre à moitié plein.
Oui, parce qu'il faut dire aussi qu'on a déjà fait beaucoup de choses, ça va être l'occasion de le montrer. Plus dans certains secteurs, dans d'autres. On a des secteurs qui ont beaucoup évolué, d'autres moins. Dans la planification écologique, ça voudra dire aussi de mettre en balance l'objectif environnemental, mais tenir économiquement, tenir en termes de production. Si on est super vert, mais qu'on divise la production par deux,
ça n'a aucun intérêt.
Les fruits coûteront deux fois plus cher, personne ne pourra les acheter. Mmh. Donc là, produire quand même, produire et produire plus, parce que la population a augmenté, parce que certains marchés ne nous seront plus disponible non plus pour nous nourrir et le faire avec des moyens respectueux de l'environnement.
Vous parliez
C'est l'agroécologie, c'est l'agroforesterie, c'est l'agriculture biologique qui se développe de façon importante. Maintenant, il faut que les consommateurs suivent.
Mais alors,
on voit aujourd'hui un désamour sur le bio qui nous inquiète.
Oui et non, mais on en parle ensemble. Vous parliez à l'instant de l'État qui doit agir notamment sur le sujet de la concurrence pour éviter les distorsions des pays moins regardants, notamment sur le plan environnemental. Et ça, on en vient aussi à cette agriculture biologique. Le bio en Espagne n'est pas soumis aux mêmes règles que le bio en France. Donc, vous faites comment, vous, les agriculteurs, pour vous en sortir ? Ce n'est pas les mêmes taxes non plus.
Alors, ça a été vrai pour le bio. Il y a eu un cahier des charges européen qui a enfin harmonisé, mais il y a très peu de temps. Et encore, il existe des différences. Vous avez des raisons de le dire. Et ce n'est pas normal. Soit les règles sont les mêmes dans tous les pays et on peut jouer
en tout cas d'Europe.
D'égalité, bien sûr. Sinon, c'est comme si on met un poids lourd et un poids plume sur un ring de boxe, on sait très vite qui va gagner. Quand certains produits phyto sont interdits en France, mais autorisés en Espagne, en Italie, en Turquie par exemple, pour les cerises, le diméthoate est autorisé, il est interdit en France. On a diminué la production de cerises de 30%, on importe des cerises turques traitées avec un produit qu'on ne veut pas chez nous. Donc, ce n'est pas sérieux.
C'est une folie.
C'est une folie. Donc, il faut des règles les plus homogènes possibles. Et dans les accords internationaux de commerce, il faut aussi les mêmes règles aux frontières. Mmh. Si on fait venir des animaux qui ont été hormonés ou qui ont été nourris, protégés par des antibiotiques, ce ne sont pas les mêmes animaux qu'on a chez nous. Mmh. Et donc, ils sont moins chers. Et nos produits ne trouvent plus preneurs. Et ces distorsions, les agriculteurs les vivent très mal. Vous savez, on réussira les transitions chez nous s'il n'arrive pas des flots de produits venant d'ailleurs qui ne respectent rien du tout. Sinon, ça va désespérer les agriculteurs.
On pourrait faire prix coûtant, fruits, légumes, viande, ce serait possible ?
Alors, il faut beaucoup de transparence. Moi, j'entends ce qui est dit aujourd'hui sur les fruits et les légumes, y compris sur vos ondes. Mes producteurs de pêche, je les ai interrogés hier matin. Ils vendent leur pêche 2,41 euros.
Ouais.
Quand j'entends un épicier dire « je les vends 8,50 euros, je ne peux pas faire autrement », où passe la différence ? C'est sur 100 euros de dépenses alimentaires, 100 euros de dépenses alimentaires aujourd'hui dans votre panier de ménagère, 6 euros reviennent à l'agriculteur. Tout le reste, ce sont des intermédiaires ou des taxes ou du transport.
Il faut lever les
ou
intermédiaires.
De la logistique. Alors, il faut déjà que plus de transparence, que chacun dise clairement qu'est-ce qu'il prend. Les distributeurs avaient dit l'Ukraine a bon dos, les industriels nous trompent, etc. Il y a eu une mission parlementaire, un rapport parlementaire, un au Sénat, un à l'Assemblée nationale, qui ont dit « les distributeurs mentent, les industriels ne surfont pas, mais quand les engrais ont augmenté de 150%, quand le carburant a doublé, quand mon aliment pour les porcs a augmenté de 31%, si je ne peux pas augmenter le prix de mes produits au bout de la chaîne de mon exploitation, je suis dans le rouge et je travaille à perte, et donc je ne travaillerai pas longtemps. » En ce moment, certains producteurs de porcs n'achètent pas d'animaux pour les engraisser, pour les vendre, parce qu'ils ne vont pas gagner leur vie. Moralité, il y a moins de viande disponible, elle sera plus chère pour tous les consommateurs. Ce qui veut bien dire qu'il faut produire une certaine quantité pour l'alimentation accessible. On a quand même des Français, 5,5 millions, qui ont du mal à se nourrir.
Bien sûr.
On propose un chèque alimentaire, c'est pour cela.
Est-ce que les agriculteurs souffrent aussi de toutes ces années de politique, vous savez, les prix les plus bas, au meilleur prix ? On se souvient de toutes ces publicités, enfin, je revois ça déjà. Est-ce que vous avez souffert de cela et est-ce que maintenant, en réalité, on ne s'est pas habitué à payer le juste prix ?
Vous l'avez parfaitement décrit. Nous sommes le pays d'Europe où l'alimentation est peu chère. L'inflation aujourd'hui, c'est moins de 6%. Dans tous les pays qui nous touchent, c'est plus de 10%. Angleterre, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal sont à plus de 10% d'inflation. on sort de 8 années de baisse de prix. Les consommateurs s'en sont même pas aperçus, ils sont contents de manger moins cher. Mmh. Dans le même temps, on a perdu 100 000 exploitations agricoles. Ils ont fait faillite. Dans le même temps, on importe aujourd'hui 60% de nos fruits. C'est invraisemblable. Mes producteurs, ils demandaient qu'une chose, c'est de produire. Donc produire, ça a un prix. Le SMIC a augmenté depuis le 1er octobre de plus de 5%. Les cueilleurs de fruits, les saisonniers, mes enfants qui sont allés faire les cueillettes, il faut qu'ils soient payés. Et qu'ils soient payés correctement, c'est un métier pénible aussi, au soleil, etc. Donc,
c'est très mal payé, hein, par ailleurs.
Oui, parce que les producteurs ont du mal à répercuter l'augmentation du coût de main-d'œuvre jusqu'au prix de vente final. Vous savez, c'est un tout. Quand on parle de chaîne alimentaire, ça commence chez nous, les producteurs. Puis on a un acheteur, puis un deuxième, puis un livreur, etc. Et à la fin, un distributeur. Mais les consommateurs... de plus en plus demandent des produits qui rémunèrent leurs producteurs. Regardez l'initiative C'est qui le patron sur le lait. 99 centimes, et c'est aujourd'hui le lait le plus acheté. Oui. Les Français ont compris qu'il fallait payer l'alimentation à son prix. En Allemagne, le lait est payé 1 euro au supermarché. En France, il est payé 78 centimes. C'est plus de 20 centimes d'écart. Moralité, les industriels payent moins cher les éleveurs français que les éleveurs allemands. Le travail est le même.
Dernière question, Christian Lambert, parce qu'on arrive sur la fin de notre entretien et c'est une question importante. Beaucoup de Français ont peur. On a beaucoup parlé, notamment dans les médias, peut-être que l'on est responsable, vous allez nous le dire, de cette pénurie alimentaire qui arrive, notamment sur le lait. Première chose, est-ce que c'est vrai? Deuxième chose, est-ce qu'il faut s'attendre à une multiplication des pénuries alimentaires durant l'automne?
Alors, on a manqué de moutarde parce qu'on a arrêté de produire de la moutarde en France faute de produits de traitement. Le Canada l'a fait. Le Canada a une énorme sécheresse. On n'a plus de moutarde. Ça montre bien la dépendance. On ne manquera pas de lait. On a suffisamment de lait.
D'accord.
Par contre, il y en aura moins. Quand il y a moins de produits, les prix augmentent. C'est la règle de l'offre et de la demande. Et les prix du lait vont augmenter et doivent augmenter parce que toutes nos charges augmentent. Donc, l'alimentation sera un peu plus chère. Mmh. Il faut que les Français comprennent, et c'est vraiment un appel solennel, pour maintenir les agriculteurs, attirer des jeunes, garantir notre souveraineté alimentaire, ne pas être à la merci de Poutine ou de la sécheresse du Canada. Il faut qu'on puisse produire en France. Pour ça, il faut des moyens de production modernes, attractifs, des conditions de vie et de travail agréables pour les agriculteurs, et surtout des conditions de revenus. Et quand on a une sécheresse comme cette année, il va falloir acheter du fourrage. Pour acheter du fourrage en plus, il faut qu'on vende nos produits plus chers. Donc c'est un tout cohérent, du producteur jusqu'au consommateur. Très souvent, on se comprend entre producteur et consommateur. Maintenant, il faut qu'au milieu de chaîne, il y ait plus de transparence.
Merci beaucoup pour cet appel solennel et pour votre transparence, Christiane Lambert. Je rappelle que vous êtes la présidente de la FNSEA. Merci d'avoir accepté mon invitation pour Europe Soir Weekend. L'éco-anxiété, c'est à suivre sur Europe 1. Ce nouveau phénomène où quand le sentiment d'impuissance, la dépression et les angoisses sont induits par le changement climatique, c'est bien évidemment sur Europe 1 dans un instant. Alors restez bien avec nous pour le moment, écoutez. Ça s'appelle Everything But The Girl et c'est Missing. I step off the train. I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappear. Everything But The Girl, Missing sur Europe 1. À suivre, on vous parle de ce nouveau phénomène, l'éco-anxiété. Vous savez, où quand le sentiment d'impuissance, la dépression, les angoisses sont induits par le changement climatique, ça arrive, c'est nouveau. Et c'est sur Europe 1, tout de suite.
Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
L'éco-anxiété, vous savez, cette angoisse, ces insomnies, ce découragement ou encore ce sentiment d'impuissance et de perte de sens, ça vient quand les bouleversements écologiques en cours altèrent notre bien-être et notre santé. On en parle de plus en plus, ça a notamment fait un article ce matin dans le journal du Monde et tout le monde se penche sur cette question. Alors c'est quoi? On va essayer de vous expliquer, on va essayer de comprendre s'il existe des thérapies, des traitements et comment on peut éventuellement sortir la tête de l'eau. Pour en parler avec moi, Jean-Paul Hamon, médecin, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Antoine Pellissolo, chef du service de psychiatrie sectorisé à Henri Mondor, le CHU. Bonsoir Antoine Pellissolo.
Bonsoir.
Déjà, comment est-ce que médicalement ça se manifeste, l'éco-anxiété, Jean-Paul Hamon?
Bah écoutez, l'éco-anxiété, je ne sais pas si le changement climatique est à l'origine de l'anxiété des gens. Ils ont suffisamment de raisons à ce moment d'être d'être inquiet. Il y a une épidémie de Covid qui traîne depuis 2 ans et qui est loin d'être terminée. Il y a des gens qui prennent en ce moment la variole du singe qui va modifier la sexualité des gens. Mmh. Vous avez l'inflation qui est en train de galoper. Alors effectivement, si vous êtes en bord de mer, et je pense notamment aux gens de Camargue là, qui doivent se demander combien de temps encore ils vont pouvoir exploiter leur terre agricole.
On voit bien
aussi que on est à la merci d'un cyclone comme s'il vient de se reproduire en Corse, qui en plus Météo France qui a pas pu anticiper la chose. Donc effectivement, les gens ont de multiples raisons d'être anxieux. Vous savez, c'est pas seulement l'écologie et le changement climatique qui fait que les gens sont anxieux.
Mais en l'occurrence, là, c'est vraiment l'éco-anxiété, le phénomène dont on parle. Hein. Après, on comprend bien qu'on soit anxieux et angoissé pour plein d'autres raisons. Et a fortiori, on a des raisons d'être angoissé. L'éco-anxiété, c'est la peur de l'extinction, Antoine Pellissolo ?
Alors, c'est la peur de tout ce qui peut conduire effectivement à une planète qui ne serait plus habitable. Alors évidemment, chacun a une prise de conscience variable. Certains ne l'ont pas encore, cette prise de conscience, et puis d'autres l'ont de manière très vive, avec l'idée effectivement d'un effondrement possible de notre environnement. En tout cas, la planète résistera, mais notre environnement de vie, c'est par exemple l'augmentation des températures, plus 4 degrés, plus 5 degrés à l'horizon de la fin du siècle, c'est la raréfaction, voire les pénuries des ressources. Donc tout ça, ça crée une impression, pour certains, de fin du monde. Alors jusqu'à présent, ça restait une préoccupation, par exemple, des écologistes qui par nature étaient anxieux par rapport à l'avenir, mais qu'ils arrivaient à gérer. Aujourd'hui, les jeunes générations qui se sentent concernées, et c'est vrai que ça touche quand même beaucoup plus les jeunes que les
anciens. Voilà, j'allais vous poser cette question.
Concernées pour sa propre existence, puisque ça peut se projeter dans 20 ou 30 ans. Et les exemples qu'on a vécu cette année, que citait aussi Jean-Paul Hamon, c'est-à-dire les premiers épisodes qui commencent à venir sur notre territoire de canicules importantes qui se répètent et de sécheresse, est une alerte, mais évidemment qui est complétée ensuite par une prise de conscience des rapports scientifiques qui existent depuis maintenant longtemps, qui montrent qu'on est sur une trajectoire, qui est cette trajectoire un peu tragique. Mmh. Donc effectivement, les jeunes, avec, c'est vrai, l'accumulation des autres facteurs de stress, surtout la pandémie, surtout toutes les ruptures sociales qui en ont découlé, effectivement, les jeunes sont encore plus vulnérabilisés, on peut dire. Mais beaucoup ont cette fibre-là, de toute façon, de préoccupation pour la nature et pour l'environnement. C'est quelque chose de générationnel. Il y a des jeunes entre 15 et 25 ans aujourd'hui, alors pas tous, hein, évidemment, mais beaucoup se sentent très concernés au sens « ça me concerne et ça m'inquiète ».
Mais c'est aussi la planète qu'on leur laisse. Est-ce que ça touche plus les hommes que les femmes ? On en a une idée ?
Non, alors on n'a pas beaucoup de statistiques. D'habitude, l'anxiété, la dépression touchent un peu plus en effet les femmes que les hommes. Moi, l'impression que j'en ai, puisque je vois maintenant des patients en consultation avec ces problématiques, c'est à peu près équivalent hommes et femmes, garçons et filles. Mais sincèrement, on manque encore de statistiques. Et puis, il faut dire que par ailleurs, l'éco-anxiété, de premier stade, c'est quelque chose de tout à fait normal. Moi, je dirais que face à ces menaces-là, le fait d'être inquiet n'est pas un problème. Nous, on voit, et c'est un peu l'extrême, des personnes qui ont une souffrance qui est plutôt une complication de l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, pour moi, ce n'est pas une maladie. C'est un facteur de risque pour développer une anxiété pathologique ou une dépression.
Jean-Paul Hamon, vous pensez que ce genre d'angoisse, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure avec le Covid ou la variole du singe chez maladies émergentes, ça va faire partie des angoisses contemporaines ? Ou est-ce qu'en réalité, ce genre d'angoisse, que ce soit l'éco-anxiété, la peur d'attraper des maladies, etc., ça a toujours existé ? Ça veut dire que ça a toujours évolué avec le temps, avec les gens, avec les problèmes qu'on pouvait rencontrer ?
Ça a toujours existé. Alors c'est vrai que... Moi, mon impression de médecin généraliste, quand même, c'est que l'éco-anxiété, c'est à la marge. Quoi. On voit, il y a tellement de motifs d'être anxieux dans ce monde là, depuis quelques années que effectivement, alors on voit bien qu'il y a des comportements alimentaires qui changent, des gens qui mangent moins de viande parce que bon, ça entraîne l'élevage entraîne davantage de gaz à effet de serre, etc. Mais on voit bien qu'il y a une prise de conscience, mais sincèrement, c'est pas cette anxiété-là qui est sur le devant de la scène.
Vous, c'est quoi que vous voyez plus en tant que médecin généraliste en ce moment ?
Oh ben nous, surtout, on avait beaucoup d'adolescents qui ont souffert vraiment du manque de relations qu'ils pouvaient avoir avec les gens de leur âge. Hein. Ça a vraiment été... On a bien vu les dépressions qui ont augmenté avec les confinements successifs, avec la modification des cours, avec l'absence de réunions, ne pas pouvoir faire des fêtes comme ils voulaient, etc. Donc à un âge où vraiment c'est très important de se rencontrer, on a vu également des personnes âgées qui ont beaucoup souffert de l'isolement. Franchement, là, effectivement, on a vu effectivement des cas de dépression, même des dépressions sévères. Mais honnêtement, là, les co-anxiétés, c'est pas ce qui est sur le banc de la scène, quoi.
À partir de 2018, des milliers d'adolescents ont suivi une grève scolaire pourtant pour le climat. C'était tous les jeudis et tous les vendredis. Alors que la pandémie de Covid-19 a obligé à fermer les écoles, cette mobilisation s'est poursuivie sur les réseaux sociaux avec le hashtag Climate Strike Online. C'est une façon de lutter, d'être acteur du changement, en quelque sorte, Antoine Pellissolo. On subit plus.
Absolument. C'est le phénomène, là aussi, un peu générationnel. C'est une forme de rébellion, on va dire, parce que, en plus de l'anxiété, de l'angoisse, qui, encore une fois, comme le disait le docteur Hamon, n'est pas forcément cliniquement sensible encore aujourd'hui, mais il y a plus un esprit comme ça latent dans cette génération qui, non seulement est anxieux, est souvent en colère contre les autres, contre les anciennes générations, les décideurs, etc., parce qu'ils ont l'impression que la planète brûle, comme on dit, et puis personne ne fait rien. Donc il y a un désespoir, il y a une colère, il y a aussi beaucoup de culpabilité. Et donc la bonne réponse, effectivement, c'est la mobilisation, c'est le fait d'agir, c'est le fait de se retrouver ensemble, l'aspect collectif, et puis d'essayer de faire bouger les choses. Donc vous savez, on a en tête évidemment l'image assez démonstrative de Greta Thunberg et de ses propos. Hein.
Oui,
c'est « I want you to panic ». Il faut que vous paniquiez parce que vous ne vous rendez pas compte. Je crois que c'est ça l'alerte qu'ils essayent de faire passer, avec le fait qu'ils parlent. Ailleurs, c'est une génération qui n'est pas forcément très politisée, donc il ne va pas forcément s'engager par exemple dans des partis politiques pour cela, mais ils ont plutôt d'autres modes d'action, ou alors un sentiment d'impuissance, en effet, et de se dire, de toute façon, à quoi bon ? Et c'est là qu'on peut risquer de se retrouver dans des mouvements dépressifs, en tout cas.
Évoluer et grandir, ce n'est pas facile. Ça, vous allez nous le dire, Antoine Pellissolo, parce que vous avez l'habitude, vous êtes chef du service de psychiatrie sectorisé Henri Mondor. Mais alors, évoluer et grandir en pleine crise climatique, évoluer et grandir avec le Covid, évoluer et grandir avec la variole du singe. Bon, on peut évoluer et grandir, c'est pas facile, dis donc.
C'est tout le problème du développement de la personne. Alors, les crises en question, elles ont été majeures. Je rajouterais même, parce que c'est la même génération qui a vécu les attentats terribles. C'était quand même des scènes de guerre avec le Bataclan. Donc,
je crois que ça a été le
démarrage, plus ensuite la crise sanitaire effectivement massive. Et la crise environnementale, moi je dirais que c'est pas une crise hein, pour cette génération, ça va être le siècle qui vient. Donc ils s'attendent à pas juste passer un cap, mais à devoir s'adapter. Et donc tout cela, effectivement, c'est une fragilité forte. Mais bon, évidemment, tout le monde a des capacités d'adaptation, de résilience, comme on dit, et c'est là-dessus qu'il faut compter. La trajectoire que moi je vois chez les personnes qui sont en souffrance, alors c'est souvent des gens qui sont un peu militants déjà, hein, qui sont concernés, des climatologues par exemple, qui sont dans ces questions-là en permanence et qui par moments se découragent. Et c'est un peu comme un deuil, c'est-à-dire qu'en fait on perçoit la fin de quelque chose, la fin du monde idéal où tout allait bien jusqu'à présent et peut-être même la fin de certaines ressources hein, réellement ou de certaines terres qui ne sont plus habitables. C'est un peu un autre terme qu'on appelle la solastalgie, là, qui définit cette perte du réconfort qui vient de la terre d'origine.
Et avec la nostalgie, c'est ça, c'est un jeu de mots entre le sol et la nostalgie ?
Exactement, enfin, c'est la douleur qui vient de la perte de la terre. Et c'est un peu comme si c'est la terre qui vous quitte, la nostalgie, c'est quand vous quittez votre terre, là, c'est un peu l'inverse.
Très
et c'est un peu le sentiment de deuil rétrospectif, alors que l'éco-anxiété, c'est plutôt vers l'avenir. Et face à ça, le travail de deuil, hein, comme pour tous les pertes, c'est de traverser ces mouvements émotionnels comme on le peut. On ne peut pas les éteindre, il faut les accepter, les écouter même. Mm-hmm. Et puis petit à petit, refaire des projets de vie dans un monde différent, mais qui sera, je construis ma vie en faisant des choix, par exemple. Alors ça, on le voit bien chez les jeunes hein, qui remettent en cause, en effet, leur alimentation, par exemple, leur consommation, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que j'achète au quotidien, les vêtements, je ne sais pas d'où ils viennent, on sait bien que l'empreinte carbone est parfois démesurée, les modes de déplacement, de voyage, enfin il y a tout un tas de remises en question existentielles, notamment les choix d'études et de travail, hein, quand ça peut être vraiment, on voit bien chez les jeunes ingénieurs par exemple, qui se posent des questions sur est-ce qu'il faut travailler dans des grosses industries polluantes ou trouver des professions qui correspondent plus à ses propres valeurs. Et puis le dernier point très existentiel, je trouve, et très identitaire, c'est la remise en cause du désir d'avoir des enfants, hein, de créer de fonder une famille et de mettre au monde des enfants, avec l'idée que, très culpabilisé, de se dire mais on ne peut pas les exposer à ce monde incertain et on ne peut pas augmenter le nombre d'êtres humains alors qu'on est déjà par endroits très saturés.
Et donc comment ne pas les comprendre ? Effectivement, on continue d'en parler dans un instant. Vous restez bien avec nous. Je vous rappelle qu'on se parle de ce phénomène d'éco-anxiété, mais qui, comme on vient de l'expliquer, est relié aussi à tout ce que l'on vit depuis quelques temps désormais. Restez bien avec nous, vous êtes sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Ça fait débat, on parle de l'éco-anxiété, ces angoisses, ces insomnies, ce sentiment de découragement ou d'impuissance ou encore de perte de sens. C'est quand les bouleversements écologiques en cours altèrent notre bien-être et notre santé. Oui, mais est-ce que ça s'explique seulement par cela ou est-ce que c'est aussi complètement conjoncturel? Véronique Lapage, médecin-chercheur en santé publique et en santé mentale, avait déjà conceptualisé la notion d'éco-anxiété. C'était en 1996. Elle a notamment expliqué que ce sentiment n'était pas uniquement négatif, car il provoquait aussi une espèce de responsabilisation des personnes face au changement planétaire. Vous êtes d'accord, Antoine Pellissolo, vous qui êtes le chef du service de psychiatrie sectorisée à Henri Mondor ?
Oui, absolument. Le choc que l'on reçoit quand on a cette prise de conscience, parfois brutalement, hein, face aux événements qu'on voit plutôt dans les médias, voire qu'on vit soi-même, et puis quand on lit les rapports du GIEC, hein, c'est souvent ça le déclencheur, c'est un choc brutal. Mais évidemment, normalement, on peut le dépasser et en tirer des enseignements sur les solutions. Parce que tout le problème, c'est de trouver des réponses à cela. Et habituellement, en effet, c'est le démarrage d'une prise de conscience et d'action positive, à condition de ne pas être complètement démobilisé, découragé.
Donc en fait, l'éco-anxiété, ce n'est pas uniquement un problème, ça peut être un moteur pour changer les choses, c'est ça que vous voulez dire ?
Moi, je dirais que c'est un mal nécessaire, hein, vraiment. C'est se rendre compte de la réalité qui s'impose. Il y a encore beaucoup de gens qui sont encore un petit peu soit dans le déni, soit un petit peu distants vis-à-vis de ça. Hein. Donc c'est ça qui augmente aussi le sentiment d'urgence des autres et des jeunes en particulier. Mais je crois que c'est un passage obligé et je crois que tout un chacun, à un moment donné, devra faire son virage, on va dire, écologiste et écologique et remettre en cause un certain nombre de choses. Parce que de toute façon, vu les trajectoires actuelles, on n'aura pas le choix.
Jean-Paul Hamon, vous êtes médecin, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Est-ce que pour vous, les médias, les réseaux sociaux sont en partie responsables de ce phénomène et de tout autre problème d'angoisse? Vous savez, une espèce d'accélérateur. On entre dedans et on n'en sort pas.
Mais je pense que les réseaux sociaux ont quelque chose quand même de positif. Là, on le voit par exemple avec ce sentiment d'injustice que peuvent ressentir pas mal de monde et surtout les jeunes qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, notamment avec le phénomène de traçage des vols des riches de cette planète qui dépensent en une journée ce que peut dépenser quelqu'un, le bilan carbone de toute une vie d'une personne, avec les vols d'avions, etc., des sociétés très importantes qui les utilisent énormément. Donc il y a ce sentiment d'injustice, mais là, les réseaux sociaux ont un effet positif, parce que là, si vous voulez, on voit clairement que, bon, on nous demande de faire des efforts, les jeunes se disent « mais quelle planète on va donner à nos enfants si on en fait ?» Et là, on voit que des gens qui ont beaucoup de moyens s'en tamponnent un peu, quoi. Et donc, il y a ce sentiment d'injustice. Et donc, effectivement, il peut y avoir une réaction, et une réaction qui peut être très forte. Et là, dans ce sens-là, les réseaux sociaux peuvent avoir une importance positive.
Une fois qu'on a dit tout ça, on fait quoi ? Il faut commencer à emmener son enfant, par exemple, chez un psychologue, ou on ne panique pas, on passe déjà par le médecin généraliste. Qu'est-ce que vous, par exemple, Jean-Paul Hamon, vous préconiseriez ?
D'abord qu'on parle entre parents et enfants, parce que les enfants peuvent quand même reprocher aussi à leurs parents d'avoir laissé la planète dans l'état où elle est. C'est vrai qu'on n'a pas toujours pris conscience
de ce qu'on pouvait faire pour la planète. On a beaucoup roulé, on a beaucoup mangé de viande. C'est vrai qu'on préfère manger une côte de bœuf que de manger un steak végétal. Et donc, effectivement, on a une responsabilité. Et donc là, le dialogue entre les enfants et les parents, il est important. D'abord, on parle entre soi, puis ensuite, si les enfants effectivement on ressent le besoin, effectivement on peut travailler avec eux, on peut les voir, et puis si besoin voir un psychologue et malheureusement aussi voir les psychiatres, parce que les services de psychiatrie là ont été particulièrement débordés par les adolescents, notamment à la sortie de cette crise Covid.
Mais oui, bien sûr. Encore une fois, les avis sont contradictoires, en tout cas les avis des psychologues et des psychiatres. J'aimerais votre avis là-dessus, Antoine Pellissolo. Certains disent que l'éco-anxiété c'est comparable au syndrome stress post-traumatique résultant d'événements comme un viol ou une attaque armée. D'autres l'estiment semblable à des troubles plus bénins, comme des crises d'angoisse. Il y a une sorte de grand écart. C'est quoi votre point de vue ? Comment est-ce que vous l'appréhendez ?
En fait, c'est assez simple, c'est parce que c'est gradué et il y a tous les degrés possibles. Le degré extrême, alors que d'ailleurs, qui est intéressant, parce que effectivement, parfois les symptômes sont du niveau, en tout cas de la qualité des symptômes de stress post-traumatique, mais alors qu'en fait, c'est un stress pré-traumatique, c'est-à-dire que c'est en imaginant ce qui va arriver, il y a aussi parfois les cauchemars, etc. Mais alors, c'est rare que ça soit effectivement à ce niveau-là. Le plus souvent, c'est des troubles. Soit il n'y a pas de trouble du tout, il y a la conscience et c'est une inquiétude tout à fait légitime et qu'il faut gérer. Soit il y a des perturbations, effectivement, c'est plutôt des crises d'angoisse, des états d'insomnie, des dépressions, heureusement passagères le plus souvent. Donc, je ne veux pas dramatiser ça. Et comme l'a dit le docteur Mont, très clairement, la première réponse, c'est l'écoute, c'est le dialogue, c'est la parole, parce qu'ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de dire ce qu'ils ressentent pour se sentir aussi légitimés. Et il faut légitimer en écoutant et en approuvant ce qui est dit. Et après, vraiment, c'est un accompagnement humain. Alors oui, vous parliez des réseaux sociaux, il y a une première chose à faire quand on est vraiment débordé et que ça devient une obsession, c'est quand même peut-être un peu de prendre des temps, prendre soin de soi, prendre le temps, se déculpabiliser, parce que personne ne peut résoudre le problème par lui-même, et même en faisant tous les efforts qu'on veut, évidemment, l'impact personnel est très limité. Donc il faut accepter qu'on n'est pas toujours responsable de tout, de ne pas porter sur ses épaules, et prendre le temps. Et il y a vraiment un recours, moi je trouve très important, c'est toutes les méthodes naturelles qu'on utilise d'habitude, la relaxation, l'activité physique, la méditation, qui sont très utiles, en y ajoutant la proximité avec la nature, parce que c'est des personnes, notamment les jeunes, qui sont aussi très proche de ces des bienfaits de la nature, et là il est largement prouvé que être dans un espace vert, dans la forêt, près de l'eau, etc., a un effet bénéfique sur le stress, sur le niveau de bien-être. Et donc, ça peut paraître un peu superficiel, mais c'est vraiment par ce moyen-là, parce qu'en plus, on est en accord avec ses valeurs. Les animaux de compagnie aussi, qui sont souvent des bons repères pour se ressourcer. Et tout ça, c'est des méthodes naturelles qui sont très bénéfiques et qui peuvent permettre de passer le cap sans forcément de médicaliser à tout prix. Il faut le faire effectivement quand il y a vraiment des états grave. Mmh. Et c'est comme ça qu'on se reconstruit progressivement.
Eh bien, merci beaucoup Antoine Pellissolo, chef du service de psychiatrie sectorisée Henri Mondor, et Jean-Paul Hamon, médecin, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, pour toutes vos explications et puis de nous avoir aussi aidé à y voir plus clair, à ne pas dramatiser. Allez